Bonjour et bienvenue sur Gameblog pour ce nouveau numéro de podcast, le 494, avec tous mes acolytes autour de moi. Regardez,
je veux dire avec tous mes amis, tous mes copains.
Bonjour. Non, j'ai pas mes amis, non, faut pas exagérer non plus. Hein. Pas déconner,
bande de
avec ceux qui écrivent.
Alors justement, à ma gauche, on a Johnny One.
Bonjour.
Qui salue l'assemblée. Romain.
Bonsoir.
Et Plume, évidemment.
Salut.
Et Pouffer la technique, comme toujours, qui assure comme une bête. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, messieurs et mesdames?
Moi, je sais bien, pas.
Plusieurs choses.
Chose, en fait,
je vais vous le dire, j'ai tout préparé. Tout préparé avant de venir.
Ah, c'est vrai que t'as tout préparé, tout ça.
Exactement.
Je me rappelle, ouais.
Franchement,
et
j'étais là.
Enfermé dans une grotte, t'as fait préparer le podcast.
J'ai
vu
une feuille sur mon bureau, j'ai fait putain, mais j'ai déjà tout fait, merde.
Déjà, quand
je suis trop fort.
Quand t'as dit, déjà, tu vas réanimer le podcast, t'as dit, ah, mais moi, je m'en fous, moi, je me défile pas.
Exactement.
Moi, je viens, moi, qui viennent me chercher.
Tout à fait. D'ailleurs, vous avez pas remarqué, mais il y a des indices sur la table, comme d'habitude.
Sur ce qu'on va faire.
Exactement.
C'est une thématique abordée.
C'est incroyable.
Alors
les thèmes du jour de la semaine. Évidemment, il y a Louis Nelfein, évidemment, comme d'habitude. Les thèmes de la semaine, c'est la polémique de la semaine, même, on peut dire. La difficulté dans les jeux. Et notamment dans Sekiro. Pour ne pas parler que de lui. Mais il y en a d'autres, évidemment. Et ça, Johnny One, je pense qu'il aura un avis éclairé sur la chose. Tout comme. Mes acolytes d'à côté.
Moi j'ai un souvenir de Johnny Wan qui a dit Sekiro est trop dur.
Ouais.
Dans un
podcast. Mais justement, on va en parler, on va voir tout ça.
Voilà.
On va voir si c'est foutu de notre gueule ou pas. Et le deuxième thème, surtout, ça va être celui de Romain qui va nous parler de Super Dragon Ball Heroes World Mission qu'il a testé de A jusqu'à Z. Le jeu qu'on a appelé Gombrol Z.
De A jusqu'à Gombrol Z.
Voilà, exactement. Et puis évidemment, les thèmes habituels, les 10 ans sur Gameblog avec Plume qui va nous raconter des choses très bizarres et très étranges.
Ah bon?
Sur un anniversaire secret?
Non, je pense pas.
Si, tu verras.
Ok.
Et
bah,
puis évidemment, le hors-jeu à la fin.
Inhabituel, en tout cas. Surprenant.
Exactement. Puis le hors-jeu à la fin, évidemment. Avec Plume aussi.
Toujours.
Peut-être. Si tout va bien.
C'est Plume qui fait tous les thèmes.
Ouais, exactement. D'ailleurs, on se passe tous en solo.
J'anime Plume maintenant.
Salut,
ma pote.
Exactement. Et bien, on va commencer par le win de la semaine. N'est-ce
oui,
pas?
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est moi qui fais le win.
Eh oui. C'est toi, tout à fait.
Une fois n'est pas coutume. Non, c'est l'inverse. C'est
une fois n'est pas coutume.
Une coutume n'est pas une fois.
Une coutume n'est pas une fois. Bon, alors le win de la semaine aujourd'hui, c'est la VR qui débarque chez Nintendo et notamment avec des mises à jour gratuites pour Zelda Breath of the Wild qui va pouvoir connaître les joies de la VR, mais aussi pour Mario Odyssey qui lui aussi pourra connaître les magnifiques joies de la réalité virtuelle.
Exactement.
Donc on a Nintendo Labo, ça débarque. Ça devrait pas tarder à débarquer la VR sur Nintendo Labo, ça débarque.
C'est le 12 avril.
Le 12 avril,
voilà. La semaine,
ce vendredi.
Ah, ouais. Ah, voilà. Donc on va pouvoir tester ça très très vite. Et si on a investi dans son petit casque en carton à monter soi-même, à mettre sa Switch dedans, et ben d'ici le 26 avril, donc 14 jours plus tard, on pourra en plus télécharger des mises à jour gratuites pour les deux jeux cités précédemment, c'est-à-dire Zelda et Mario, qui vont venir apporter des petits DLC bonus, quoi,
des petits bonus
dans le jeu qui vont se jouer en réalité virtuelle. Alors, par exemple, pour Mario, on a vu un trailer, donc on a pu voir des extraits de niveau où on voyait Mario qui devait ramasser des notes, des instruments de musique, des choses comme ça. Alors, on a l'air d'être en VR à la place d'une genre de caméra, voilà, et on doit pouvoir contrôler Mario, je suppose, d'une seule main pendant qu'on tient le casque avec l'autre.
Non, en fait, quand le casque, tu tiens ta Switch près de ta tête avec les deux Joy-Con
accrochés à la Switch.
Vraiment pas très pratique.
Mon Dieu, ça risque de pas être très pratique.
C'est la question.
Alors j'espère qu'ils feront un système pour accrocher le casque sur ta tête et pouvoir avoir un Joy-Con dans chaque main, quoi. Ou alors à la limite, Mario, tu peux peut-être imaginer le jouer avec avec un seul Joy-Con. Ce
ou alors
pas
tu laisses quelqu'un jouer, toi t'as le casque tranquillement,
et
tu regardes.
Et tu t'endors.
Voilà. En tout cas, on sait pas encore trop ce que ça donnera en termes de confort de jeu, mais les petites vidéos là de Mario. Je me demande si ça va pas nous faire penser à Astrobot.
Ouais, voilà.
Forcément.
Il y a vraiment des petites ressemblances sur certains trucs qui me sautent aux yeux en regardant la vidéo. Donc je suis bien curieux de voir ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre de pas avoir prévu de système qui te permet de ne pas avoir à tenir.
Ouais,
le...
tout à fait.
Ça fait très Virtual Boy où t'étais obligé de, comme il n'y avait pas de sangle,
ouais,
t'étais obligé de
garder de l'appareil,
la tête,
exactement.
La tête sur le truc. Ouais.
Alors la question est de savoir justement, bon, Astrobot, est-ce que ce petit DLC de Mario va être à la hauteur d'Astrobot? Alors moi, c'est quelque chose que j'espère venant de la part de Nintendo, qui savent nous surprendre à chaque fois qu'ils apportent une nouvelle technologie dans leur machine. La technologie est plus ou moins maîtrisée. Donc j'espère, pourquoi pas d'entrée de jeu, voir sur ce Mario-là, bah, quelque chose, un bilan qu'on pourrait faire similaire à Astrobot, c'est-à-dire la VR apporte-t-elle un vrai plus à la jouabilité de Mario Odyssey en VR.
Bah, voilà. Le truc, c'est que là, ça reste consacré, enfin limité à une poignée de niveaux. Oui. Hein. C'est vraiment une petite expérience en plus.
Même si c'est 10 niveaux, s'ils font tous appel à une petite ficelle de jouabilité liée à la VR, ça peut être intéressant.
En tout cas, ils approfondissent le sujet jusqu'au bout pour leur jeu.
Ils expérimentent quoi.
Moi, c'est clairement le kit Nintendo Labo que j'ai le plus envie d'essayer.
Oui,
j'ai joué aucun truc Nintendo Labo jusqu'à présent, mais la réalité virtuelle, j'ai vraiment hâte de voir. Après, il ne faut pas s'attendre à des miracles en termes de résolution et de trucs comme ça.
C'est toujours les mondes.
Forcément, des concessions qui vont être faites, mais en plus, comme c'est un système qui est prévu pour les enfants, alors qu'on sait que normalement la VR, ça c'est pas en dessous de 12-13 ans. Là, il dit, je crois, de mémoire, que c'est à partir de 7 ans.
C'est 7 ans la VR.
Donc, ils ont forcément fait des choses pour que ça tue pas les yeux des enfants.
Puis que ça évite la nausée aussi, surtout parce que ça, c'est un énorme problème. Et que, effectivement, quand t'as une résolution qui est basse et que le framerate est pas optimal non plus, tu peux vite te retrouver à avoir la gerbe. Et
exactement.
Je pense que Nintendo prendrait pas le risque de sortir un truc. Qui faisait ce genre d'effet, donc
non.
Espérons, parce que des enfants qui vomissent, je crois que on en voit trop en ce moment.
Ça me parle un peu.
Bon, et en tout cas, on n'a pas fini sur le sujet parce qu'il nous reste une autre expérience qui sera proposée via mise à jour gratuite, elle aussi, le 26 avril. Ce sera la mise à jour de Zelda. Alors là, Zelda, on nous promet l'aventure totale jouable en réalité virtuelle. Alors bon. Qu'est-ce que ce sera ? Est-ce qu'on aura notre console collée sur la tête ? En tout cas, ça risque d'être très très pratique. Voilà. Là, pour le coup, j'y crois un peu moins que pour Mario, moi, pour celle-ci. Parce que, en fait, en vrai, on va devenir la caméra. Voilà, on va voir évoluer Link dans des décors. Oui, en effet, qui seront en 3D, qui auront l'air réel devant nous, mais on ne sera qu'une caméra. On va pas vraiment, je pense, être immergé de façon particulière dans le jeu. Donc bon.
Dans Astrobot, c'était pareil, je prends toujours Astrobot en exemple parce que c'était tellement bien.
C'est vrai, de l'extérieur, t'as l'impression que c'est bidon.
T'étais pas le joueur lui-même, mais t'es vachement immergé dans
le
truc.
Mais là, reste la question de savoir est-ce qu'on va vraiment pouvoir ressentir plus d'immersion. Oui, forcément.
Normalement, oui,
de par la VR, mais de par des ficelles de gameplay ou de jouabilité pour nous inclure dans le jeu en plus, ça, j'en doute.
Je pense pas que ce soit l'idée.
Ce sera vraiment juste une expérience jouée au jeu en VR. C'était un bonus. Pour le coup, c'est vraiment un bonus. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a mis d'ailleurs dans le Win, parce que tout ça, c'est du bonus.
C'est intriguant.
C'est très intriguant.
Ça te permet pas, enfin, ça te gâche pas le plaisir de jouer normalement, mais ça t'apporte un truc en plus.
Exactement.
C'est
exactement. Et si t'as bon, alors je suppose qu'il faudra tout de même faire l'achat d'un des packs Nintendo Labo pour avoir
forcément
le matériel. Voir si après il y a pas des petits malins qui vont sortir des kits à monter soi-même sur internet avec les mises à jour gratuites de Zelda et de Mario Odyssey. L'avenir nous le dira.
C'est bientôt, de toute façon.
Un autre truc à noter, c'est que quand il y a eu les premières rumeurs sérieuses. Et notez bien sérieuse sur la réalité virtuelle
et
sur Switch.
Farfelu.
Avant l'annonce de Nintendo Labo, la rumeur disait que ça serait des mises à jour pour des jeux Nintendo déjà sortis. Donc ça montre que les personnes, c'était des Anglais de mémoire qui avaient balancé ça, avaient vu juste parce que c'est bien des jeux déjà sortis.
Exactement, tout à fait.
Et je serais curieux de voir s'il n'y en a pas d'autres en plus de ça.
Ah bah Mario Kart, ça serait bingo s'il le faisait.
Mais
de cette
façon. Là encore, il faut
trouver
un moyen.
Là, tu vas te
Mario
Kart. Non, mais il faut que tu trouves un moyen d'attacher le casque ou je sais pas, de jouer autrement. Parce
bah des sangles.
Je nous imagine mal jouer comme ça en tenant le truc à côté du visage.
Comme le dit Johnny Wayne, il y aura sûrement des constructeurs qui vont se pointer.
Même pas des constructeurs, des petits malins. Je veux dire, moi je te sors un kit en carton.
Des éditeurs tiers.
Do it yourself.
Des éditeurs tiers qui vont arriver, qui vont mettre leur truc avec un élastique ou je sais pas quoi. Un strap pour mettre autour de ta tête et que tout le poids de la Switch pèse pas forcément sur ton pif, surtout parce que ça va être ça le problème.
Et
à mon avis, ça va arriver dans pas longtemps.
Bon, en tout cas, ça c'était le win, donc ça veut dire qu'on l'attend quand même pas mal. On a envie que ce soit bien et on espère que ça va être bien. De toute façon, on vous en reparlera évidemment sur le site dès qu'on aura reçu tout ça. Alors, le fail maintenant, mon cher Romain,
c'est moi.
Tu flippes,
Ah, je flippe.
C'est quoi?
C'est peut-être le fail le moins surprenant de ces dernières années. Donc, c'est Ubisoft qui annonce la fin de la production et de la vente des jouets Starlink.
C'est une surprise.
Et là, tout le monde est sidéré.
Faut dire qu'ils étaient venus un peu après la guerre, quoi.
En fait, ils arrivent à une époque où on sait déjà que le jouet vidéo, ça ne marche pas.
Ouais. Enfin, moins bien qu'avant, en tout cas, c'est
oui,
sûr.
Oui, moins qu'à une époque. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup de marques qui ont essayé, qui se sont un peu brisé les reins là-dessus. Et t'as Ubisoft qui arrive par-dessus avec un univers qui n'est pas du tout intéressant. Des jouets qui sont pas spécialement sexy visuellement. Le seul truc qui aurait pu vaguement sauver, c'était le lien avec Star Fox, mais là encore ça se limitait à une seule plateforme. Et alors je sais que Julo pour je ne sais quelle raison avait bien aimé Starlink.
Je me branchais pas mal, hein. Franchement, hein.
Alors moi ça me branchait, mais pas du tout. Et visiblement on était plus nombreux dans mon cas que dans celui de Julo, parce que le truc s'est mal vendu. On a vu à la fin de l'année dernière très vite de grosses promotions sur les packs
à 25 euros.
Ouais, ça valait plus rien.
Au bout d'un mois, un mois et demi.
Et là, Ubisoft laisse tomber, et non seulement il laisse tomber, mais les mises à jour à venir qui étaient prévues sont abandonnées. Donc on en restera là sur.
Alors,
sur
je crois qu'ils ont dit qu'ils feraient quand même les mises à jour in game, mais que les jouets ne sortiraient pas.
Oui, voilà, c'est
ce qui coûte le plus cher à produire de toute façon.
Oui, voilà, ne pas commercialiser de jouets physiques pour la mise à jour de ce printemps et à l'avenir. Donc ça veut dire qu'il y aura la mise à jour, mais
sans
pas,
les jouets,
qu'il ne s'accompagnera pas de nouveaux jouets, et il y aura plus de nouveaux jouets.
Faut dire que les jouets, ils étaient peut-être un peu trop sophistiqués aussi. Hein. C'est peut-être ça qui coûtait très cher.
C'était super cher, hein. 30 balles de vaisseau, c'était
obligatoire pour le jeu. Ils avaient aucune utilité.
Sophistiqué, mais les figurines elles faisaient un petit. Je parle pas des vaisseaux.
Oui, parce que les vaisseaux c'est quand même assez précis. Ça, hein.
Les vaisseaux, les jouets en eux-mêmes, la quali elle était assez douteuse, notamment quand on regardait les connectiques. Alors là, on est sur un tas de jouets, alors que ce soit les Skylanders, les Lego Dimensions, les Amiibo, tout ça c'est du NFC, de la communication NFC sans fil, sans contact. Là, on avait des, je te jure, des pattes de composants mécaniques épaisses de, allez, peut-être 3-4 mm. Ouais. J'avais pas vu ça depuis les années 80, peut-être. Non mais vraiment, la technologie était super grossière.
Ouais, c'est vraiment. Camelot, hein.
Regarde, ça a dû être. Je sais pas si vous souvenez, vous avez dû faire ça en TP quand vous étiez plus jeune. La machine là, tu faisais du soleil sur ton, pas du soleil, une lumière très forte sur un circuit imprimé. Ensuite, ouais, tu passais à l'acide et tout. Clairement, ça a été fabriqué comme ça, ces trucs. Enfin voilà.
non, vraiment. Ça a été fabriqué
la
par
vieille technologie.
Ouais.
La vieille technologie. Quoi.
Ouais, mais
la
ils ont voulu réduire les coûts, j'imagine. Hein,
ouais, après, ça, ils les ont réduits à donf. Hein. Et ils vendaient ça quand même 30 balles, les vaisseaux. Moi, je trouvais ça un peu cher.
Franchement, dans 20 ans, quand ça vaudra la peau du cul.
D'ailleurs, où est passé le carton de jeu?
Alors, ça m'étonnerait vraiment. Peut-être les
c'est
Julo
qui est parti avec.
Julo, il est parti avec son carton.
Ouais, peut-être, ouais.
Mais je me souviens à l'E3, quand ils l'ont présenté, c'était l'année dernière ou il y a deux ans? Je sais plus, le temps passe vite.
Il y a deux ans.
Hein. Bah, il y a deux ans, hein, je pense. Hein. Ouais, ouais.
Deux ans, je sais plus. Enfin, bref. Hein. Et apparemment, d'après ce qu'ils se disaient sur place, c'était genre un gros truc pour Ubisoft. Ils plaçaient beaucoup d'espoir là-dedans. Alors que tous les journalistes sur place se disaient, mais ce truc-là, ça va pas marcher, quoi.
Ils auraient dû faire un dessin animé, des trucs à côté avec. Peut-être
mais
que
tu
ça
sais que dans les années 80, c'est... puisqu'on parle de la technologie des années 80, les dessins animés, c'était uniquement fait
d'appel.
pour vendre des jouets. Et c'est vrai que pour Star Fox, ils auraient peut-être pu faire ça aussi.
C'était trop ciblé adulte, ce jeu-là, je ne sais pas.
Peut-être.
C'était le fail. Ciblé tiep, ouais, surtout.
C'était le fail de la semaine.
Oui. C'est dommage, moi, il me donnait vraiment bien envie. Hein, mais...
bah, tu vas pouvoir te l'acheter pour pas cher.
Non,
je suis sûr que tu vas sur eBay.
Même 25 balles, c'est trop.
Mais non, mais 25 balles et toutes les versions.
T'es pas si intéressé que ça.
Allez, 25 balles, mais tu me files tous les vaisseaux avec.
Exactement. Là, c'est une affaire.
Là, c'est une affaire.
Dans 10 ans, tu revends tout 10 fois le prix et puis voilà, c'est bon. T'es en train de tes frais. Bon, bah voilà, c'était le fail de la semaine, n'est-ce pas, Starlink, malheureusement. Adios. Parti trop tôt, trop jeune.
Salut, mon pote.
Exactement. Tout de suite, il y a 10 ans sur Gameblog.
Il y a 10 ans sur Gameblog, il y avait
Trace. C'est moi. Alors j'aimerais bien savoir imiter Thomas, mais je sais pas le faire. Donc
c'est
du
vrai
coup, je vais essayer de.
Bah, deviens roux déjà pour commencer.
Ouais, je deviens roux, donc c'est un peu compliqué. J'ai sélectionné 3 news pour vous cette semaine.
Quelle classe.
3 news, dont une première qui parle de FF7.
Exact.
On attend toujours le remake, évidemment, mais il y a 10 ans.
Le refait.
À cette époque, eh bien, on apprenait qu'FF7 débarquait sur PS3 et PSP. Et là, il vient de sortir sur Switch. Donc je me disais, dans la actualité, ça peut
sur
être.
Sur Switch et Xbox One.
Et Xbox One,
exact,
absolument. Donc il est un peu partout. Et il y a 10 ans, en fait, bah, il arrivait déjà. Sur ouais, Johnny One.
Moi je l'ai fait il y a beaucoup plus qu'il y a 10 ans sur ma PSP.
Ah ouais?
Ouais.
Comme t'es un tricheur, toi, c'est normal.
Oui, tu l'avais craqué.
La PSP 1.0 américaine.
Ouais, bah voilà, forcément, ouais, voilà. C'était sûr.
Moi j'avais la 0.9.
Et donc, je l'avais. D'ailleurs, c'était un des premiers jeux que j'avais fait sur ma PSP. Enfin, FF7. Voilà.
T'as d'autres anecdotes comme ça à nous raconter?
Bah ouais, plutôt.
Bah, faut pas être fier de soi. Donc il avait été ajouté sur le PlayStation Store japonais.
Exact.
11€ environ. C'était un prix déjà un peu excessif pour un jeu.
Bon, ça va, c'est pas la mort.
Qui avait déjà de l'âge. Et aujourd'hui, bah, les choses n'ont pas changé. Il est toujours aussi cher, quelle que soit la machine sur laquelle.
Il est à 16 sur PS4.
Et bah, voilà.
Et là, pour le coup, c'était le portage de la version PS1 sans les nouvelles options, sans les trucs comme ça.
Absolument.
Ouais. Bah, c'est cette version-là que j'ai achetée sur ma Vita et j'avoue que le grind des trucs comme ça, c'est.
Alors, je l'ai racheté sur Vita aussi.
Tu l'as racheté sur Vita.
C'est pour ça qu'il connaît tous les prix par cœur, de tous les stores, de tous les stores qui existent. Il connaît tous les prix.
Je sais pas si ça vous fait cette impression, mais je trouve que souvent dans les news d'il y a 10 ans, il y a énormément de parallèles avec ce qui se passe actuellement.
Bah oui, c'est quoi?
C'est non-stop.
Tu fais bien de le dire, mais parce que là. De quoi on parlait il y a 10 ans, encore une fois, et bien on parlait de Borderlands.
Non,
ces derniers temps, on parle de Borderlands 3. Eh bien, il y a 10 ans, on apprenait grâce à quel magazine déjà, PC Gamer,
exact.
Eh bien, que Borderlands changeait complètement de peau. Alors moi, je peux vous le dire, l'année d'avant, aux alentours du mois de juillet, j'étais à Dallas chez Gearbox pour découvrir Borderlands. Et effectivement, il avait pas la tronche.
Non, il avait un style super sérieux.
Il était ultra sérieux. C'était un jeu plutôt sombre. Et là,
il y avait déjà un milliard d'armes.
Et il y a un demi-million, ouais. Monsieur, ouais, 500 000 armes. C'était la coupe de Joypad.
Ouais, ouais.
Je peux attester.
Je l'avais, ce magazine.
C'est vrai.
Souviens.
Il y avait des 500. On avait mis des armes sur la couverture.
Ouais, ouais.
500 000.
et donc, il avait beaucoup changé visuellement. En fait, il était passé. Stupeur, à du cel shading, à quelque chose de beaucoup plus coloré que ce qui était prévu au départ, qui était un mélange de Firefly, Mad Max et autres. Et c'était un peu la stupeur. Et
dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme?
Bah, dans le bon sens, dans
la
le
surprise,
bon sens. Mais c'était surprenant parce que forcément, c'est pas comme ça que Gearbox l'avait présenté. Et quelques mois plus tard, il avait complètement changé. Donc.
En plus, le projet envoyait déjà du pâté de base, c'est-à-dire c'était déjà une grosse annonce quand ça a été sorti.
Ah ouais.
Et même avec un design pas cel-shading, avec le design sérieux qu'il avait, et bah déjà le jeu donnait grave envie aux joueurs et faisait naître déjà une hype.
Ah bah je me rappelle que oui.
Est-ce qu'il avait déjà le ton un peu décalé, humoristique, ou ça c'est venu avec les graphismes?
C'est venu avec les graphismes, je pense. De toute façon, on l'a pas vraiment vu parce que c'était une annonce à l'époque. À part, mis à part Plume, peut-être qu'il l'a vu, tu vois.
Moi j'ai vu les bouts cinématiques et la façon dont étaient générées les armes, mais après.
Tout ce que t'as vu, c'est collector. J'espère que tu l'as gardé dans un coin de ta tête.
J'ai encore tout là. Ouais.
T'as pris des photos.
J'ai dîné chez Randy Pitchford le soir même. Hein, ouais, vraiment, ouais.
Chez lui même.
Chez lui, absolument. Je peux même te détailler comment était sa maison, comment était sa salle de.
Elle était grande.
Sa salle de théâtre.
Comment était sa
magie
femme,
qu'il a dans sa. Mais peut-être il a changé.
Il a une salle de magie.
Ouais, il a une salle. Il est comme un espèce de petit théâtre de magie parce qu'il est magicien aussi. Et il était tout content de nous montrer ça. Et on avait dîné. J'avais fait mon interview chez lui. C'était plutôt cool. Et effectivement. Donc le jeu est beaucoup changé. Et aujourd'hui, Borderlands 3 est un des jeux les plus attendus de l'année. Il sort le 13 septembre prochain. Faut dire que probablement le changement, l'orientation visuelle a dû aider aussi à
faire ce
que
le succès de la série
soit
bien sûr,
aussi facilement.
Il y a des chances.
Donc voilà, c'était Borderlands aussi il y a 10 ans. Et en troisième news, sélectionné, eh bien c'était Satoru Iwata, feu président de Nintendo, qui déclarait être très déçu de la position de la Wii au Japon. Il faut dire qu'à l'époque, ça faisait quelques semaines que la PS3 se vendait mieux de façon hebdomadaire que la Wii. Et là, à ce moment-là, on se disait, mais c'est inquiétant,
c'est bizarre.
Y est, Nintendo va mourir. Ouais. Nintendo est dans la panade.
C'était la dernière chance, comme on disait à chaque fois.
Ils avaient écoulé 50 millions d'exemplaires de la console, mais c'est vrai que ça commençait à devenir un petit peu étrange que la PS3 passe devant à ce moment-là. Et Iwata donc déclarait, parce qu'il y avait des insistances de la part des joueurs de faire baisser le prix de la console, et lui déclarait que la situation actuelle du marché japonais n'est pas celle que nous désirons. Une baisse de prix dans une économie en difficulté ne stimulera ni le marché ni les ventes. La vitesse à laquelle les gens se lassent de toute nouvelle forme de divertissement est plus élevée au Japon que sur les marchés étrangers. Une lassitude peut-être. En attendant, la console, elle s'est écoulée à 12,5 millions d'exemplaires au Japon, plus de 101 millions d'exemplaires dans le monde. Donc ça va, tout s'est bien passé quand même pour la Wii, qui est restée un phénomène pendant toute la durée de sa commercialisation.
C'est cohérent avec la politique de Nintendo de toujours, qui sont très réticents vis-à-vis des baisses de prix.
Encore une fois, si on regarde aujourd'hui, la Switch, la baisse de prix, on peut s'asseoir dessus jusqu'à environ dans 15 ans.
Non, jusqu'à la sortie de nouveaux modèles.
Jusqu'aux 25 millions.
C'est vrai qu'il y a deux modèles qui sont en rumeur et peut-être qu'à ce moment-là, elle baissera de prix, ou alors que les deux modèles vont juste s'adapter autour de ce prix-là.
Exactement.
Ou peut-être qu'il y aura des kits avec le kit VR et du coup, elle va baisser de prix à ce moment-là.
T'imagines si c'est ça?
J'en sais rien.
C'est-à-dire que tu seras un devin?
À ce moment-là, j'arriverai, je dirais que je vous l'avais dit.
Exactement.
Tout simplement.
Tout à fait.
La prochaine fois, tu te concentres sur les chiffres du loto, s'il te plaît.
Ou alors je peux gagner une maison en Dordogne pour 13 euros. Dire, hein, si tu veux. On peut essayer ça.
Le Périgord noir.
Exactement. Bah voilà, c'était les 3 news il y a 10 ans sur Gameblog. J'espère que je l'ai.
Souvenez-vous, formidable.
J'aimerais bien savoir imiter Thomas, mais je sais pas s'il a une diction peut-être un peu particulière, mais j'arriverai pas à la faire peut-être.
Bah, en train
quelqu'un,
toi,
tu y arriverais toi ou pas?
Non, j'y arriverais pas, ouais. Moi, c'est pas possible.
Et Julio, il serait là, il l'aurait imité tout de suite.
Je parle pas assez distinctement comme toi.
Là, j'essaye de réfléchir, ouais, de l'entendre dans ma tête.
Alors, il y a 10 ans, sur Gameblog, mais non, j'arrive même pas à faire sa respiration, tu vois. C'est...
Ah, il y a quelque chose,
quoi. Ouais, j'essaye de voir un peu, mais il a pas de vrai type de langage, le truc. Mais il a une respiration et une élocution qui est assez spéciale, mais j'arriverai pas à la refaire.
En tout cas, les Japonais, ils vont bien le comprendre, a priori.
Normalement, ouais. Mais il a déjà perdu à Mario Kart.
Il se fait étendre par sa femme sur Mario Kart.
Bah ouais, qu'est-ce que tu veux.
Il se fait même poncer. On peut le dire. Il se fait laver même.
Oh là là, l'humiliation.
Il se fait rouler dessus.
Oh là là.
C'est l'aquaplanage là.
Ah ouais, exactement. Je pense que c'est.
On salue évidemment Thomas et Emeline qui doivent s'éclater au Japon alors que nous, on a trace là.
Bref. Nous, ça craint. Bon, alors après cette interlude, j'allais dire, des 10 ans et tes trucs comiques sur Thomas, le pauvre. Nous allons passer au thème number one de la semaine.
C'est
voilà.
Un gros thème. Hein.
Et je pense que Johnny One aura beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire, le mode facile, est-ce qu'il faut en mettre un dans tous les jeux ou pas? Là, ça a créé une grosse polémique sur le site, notamment parce qu'on a fait un sondage. Et effectivement, vous avez été très nombreux à réagir. Parfois de manière un peu excessive, mais bon, ça, c'est toujours pareil.
Les gamers excessifs.
Non, il y en a pas sur Gameblog. Des gens qui réagissent de façon excessive.
Après, c'est la passion, c'est ce que je te dis. C'est ça la vie, c'est la passion.
Bon, 59%, hein, quand même.
Voilà,
on dit qu'ils ne voulaient pas d'un mode easy sur Sekiro. C'est quand même un peu surprenant. Quand on peut imaginer les différents scénarios d'un mode facile dans Sekiro, moi, je trouve ça un peu étrange. Pourquoi? Pourquoi refuser cette idée d'un mode...
Je suis pas venu ici pour souffrir.
Bah écoute, il y a de ça, ouais. C'est...
Moi, la première question que je me pose, c'est quand on achète Sekiro, on a lu ton test, on a lu le test d'autres personnes, on sait à quoi s'attendre.
On a vu From Software sur la boîte.
Bah oui, on a vu écrit From Software. Enfin, moi, normalement, je sais à quoi m'attendre. Et je sais à quoi m'attendre avec ce jeu. J'ai commencé, je me suis fait étaler plusieurs fois. Bon, là, j'ai arrêté pour l'instant parce qu'il y a
beaucoup de temps. Parce que tu perdais trop.
Mais on sait quoi.
On sait pourquoi
s'attendre.
On est venu, c'est ça que tu veux
dire. Exactement.
Voilà.
Et est-ce que ça fait pas partie de la beauté du jeu?
Oh, si.
Alors, Johnny One, t'en penses quoi, toi?
Moi, je pense que. Un mode facile, pour répondre en gros à cette question-là, un mode facile dans Sekiro, ce serait pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça viendrait changer l'équilibre du jeu. Tel qu'il a été voulu par les développeurs. Alors on a pu lire à droite, à gauche, par-ci, par-là, chez certains développeurs qui se sont exprimés sur le sujet, qui disaient que...
C'est d'abord des journalistes qui ont lancé le truc. Hein.
Alors
c'est
que c'était fait complètement...
Dave Tier de Forbes, ouais. Qui a commencé par faire un papier en disant « Non, mais là, c'est trop dur, j'en peux plus. » Après, les journalistes, en général, quand on écrit des trucs comme ça, après, on passe pour des ânes. Hein.
Mais là, je pense que Johnny, tu faisais référence
aux
déclarations de Jean-Pierre Calabs de Platinum Games, qui est pour le coup un studio qui est plutôt bien placé. Pour
ex-Platinum Games maintenant chez EA.
Et lui qui nous disait même limite carrément que en fait la difficulté n'était pas faite exprès, qu'ils avaient posé ça paf comme un gros tas. Ah bah c'est difficile, on va le laisser.
Donc en gros, leur jeu était mal foutu.
Non, ça j'y crois pas une seule seconde.
Pas mal calibré, pas mal foutu.
Mais moi tu vois, j'arrive pas à comprendre ton positionnement de Johnny. Et je me prends la tête
tout le respect
matin,
que je te dois.
Et je me prends la tête avec des gens sur Twitter depuis ce matin pour ça.
Ouais,
parce
mais ça c'est parce que
par idiotie, je réponds. Bon là pour le coup c'est moi qui ai lancé le débat. Mais
parce que t'es un con, c'est tout.
Il n'est pas question de retirer quoi que ce soit, de dénaturer ton expérience, l'expérience de Sekiro ou de n'importe quel autre jeu difficile tel qu'elle existe, elle serait toujours là. C'est juste d'ajouter un truc en plus, c'est que les gens qui disent, et c'était pareil dans Mario, New Super Mario quand ils ont annoncé un mode assisté, ou dans Bayonetta quand ils ont ajouté le mode assistance, ouais. Les gens crient au scandale, mais on veut pas retirer, par exemple dans Bayonetta, pour avoir le mode, le trophée pur platinum, il fallait terminer tous les niveaux sans se faire toucher ne serait-ce qu'une fois, ça c'est toujours là. C'est juste ajouter quelque chose pour les gens qui n'ont pas forcément le temps ou les capacités de jouer comme ça. Par exemple, tu vois, l'univers de Sekiro, moi je le trouve super sexy. Ça me donne vachement envie d'y jouer. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais il y a des gens qui vont dire « Ouais, c'est super cool, ça a l'air super bien, mais si c'est pour me faire déchirer toutes les deux minutes, j'ai tout simplement… »
Ça peur que ça te dégoûte quelque part d'avancer dans le jeu en disant…
Pas moi, parce que ça m'arrive souvent de faire des jeux en légendaire ou des trucs comme ça, mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont tout simplement pas le temps de se consacrer à du die and retry pendant 50 000 heures jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Après, j'ai vu des gens répondre « Ah oui, bah, si si c'est ça le problème, t'as 50 000 autres jeux auxquels tu peux jouer. Mais là encore, cette réponse-là n'est pas bonne parce que là, on parle d'un univers précis. Si t'as envie de jouer, c'est l'univers de Sekiro qui t'intéresse, mais que le jeu tel qu'il est fait ne te permet pas d'y jouer, t'es coincé. Et là, il n'est pas question de compromettre la vision des développeurs ou quoi que ce soit, c'est juste d'adapter parce que tu peux très bien faire un jeu difficile pour les joueurs plus occasionnels tout en proposant à côté un truc encore plus difficile et encore plus, on va dire, la vision pure du jeu qu'ont eu les développeurs pour leur création. Tu vois, il n'est pas question de retirer ça. Et autre chose, il n'est pas question de retirer ça du jeu. Parce que des gens, quand tu les écoutes, parfois, tu as l'impression que ajouter ce mode facile serait retirer ce que la substantifique moelle du jeu à la base. Mais non, c'est pas ça. C'est juste d'ajouter, et il n'est pas question de les forcer non plus. C'est s'ils avaient envie, ils pourraient le faire. Moi, je comprends pas les gens qui sont si remontés contre ça.
J'ai deux remarques à ce sujet. La première, c'est que ça pourrait demander plus de taf aux développeurs.
Ça, c'est évident.
Donc forcément plus de ressources, plus de moyens.
Ouais, mais ça peut avoir un impact sur les ventes.
Aussi, ça peut. Mais après, la chose... Enfin, comme je vois un jeu comme Sekiro, c'est avec l'univers, il y a des règles. Et que à partir du moment où tu as envie de te plonger dedans, il faut savoir les accepter. Maintenant, je dis pas que c'est la vérité,
super, tout ça.
Et qu'il faut forcément rester obtus sur la question. Je dis juste que s'il est sorti comme ça et que tu dois y jouer de cette façon, c'est-à-dire en chiant, et je pense que là Johnny est bien placé pour en parler, et je pense qu'on a des lecteurs parmi nous qui, comme Balouk ou encore Ninjado, qui eux aussi l'ont terminé, en ont bien bavé. Mais est-ce que
c'est pas plus gratifiant de finir,
voilà, est-ce que accepter ces règles et triompher de tous ces défis, de tous ces challenges que t'impose Sekiro, ça n'est pas tout aussi gratifiant finalement, et que le fait d'ajouter un mode easy, et là pareil, pour un mode easy il y aurait deux possibilités: mettre un mode easy général qui baisse un peu la difficulté, ou mettre un mode easy auquel tu peux accéder à n'importe quel moment, comme c'est le cas dans plein de jeux, plein de FPS, dont Wolfenstein par exemple, qui pour moi était beaucoup trop difficile, et je l'ai commencé en facile par la suite. C'est peut-être essayer d'éviter d'avoir la tentation de faire de Sekiro un jeu qui justement ne va plus chercher qui va plus te récompenser quand tu vas réussir quelque chose de difficile. Je pense que vraiment les deux points de vue se valent, mais que c'est très compliqué
à estimer. Parce que par exemple, si t'as besoin
c'est l'essence d'un Souls.
Non, mais si t'as besoin d'être réconforté dans ton fort intérieur de joueur et de te prouver que c'est toi le plus fort et le plus résistant et le plus truc, t'as qu'à faire en sorte, si tu joues en facile, t'as aucun succès, t'as aucun trophée, t'as aucune récompense. Les seules personnes qui ont des récompenses sont celles qui terminent le jeu en mode, on va dire, authentique ou truc comme ça. T'as des moyens d'adapter. Et après, la difficulté, c'est graduel. Tu vois, c'est pas soit extrêmement dur, soit extrêmement facile. Tu peux, là encore, ça demande du dev, mais en travaillant ça, tu peux créer une expérience qui sera difficile, mais surmontable pour un joueur occasionnel, tout en ayant à côté cette difficulté méga hardcore pour les purs et durs. Tu vois, il y a tellement de jeux qui proposent des modes difficiles ou très difficiles sur lesquels les gros fans jouent uniquement, tout en ayant à côté des modes plus simples, et personne crie au scandale. Moi, je me souviens, Halo Reach, il y avait je m'étais donné le défi à l'époque, parce que j'avais du temps, de débloquer tous les succès de Halo Reach. Et un de ces succès, c'était terminer la campagne en légendaire tout seul, sans jouer en coop. Voilà, mais il y en avait un, c'était tous en légendaire, en jouant tout seul. Ce qui rend les choses quand même beaucoup plus difficiles, surtout que l'IA dans les Halo était quand même corsée. Je l'ai fait, ça m'a demandé beaucoup de temps, mais c'est pas parce que j'ai fait ça que je vais dire aux autres qui ont joué en facile que ce sont des sous-joueurs, ou que ce mode facile n'a pas de raison d'exister, que c'est une honte et que ça dénature la vision des développeurs.
Mais t'as senti quoi quand tu l'as réussi?
Mais j'étais content, mais je voulais pas empêcher.
Peut-être que les joueurs.
Je
dis ça.
Mais je voulais pas empêcher les autres de pouvoir profiter du jeu malgré tout.
Peut-être que je dis une connerie, mais peut-être que les joueurs ont envie que d'autres joueurs se surpassent.
Non. Non.
Y a
moi,
une question qu'il faudrait se poser aussi.
Dans leur petit club, c'est de possible, PGM, oui. Et non, continuer à se flatter entre eux, dire nous on y a réussi, vous êtes trop nuls, allez jouer à Yoshi.
Il y a une question qu'il faudrait se poser déjà de base, c'est qu'est-ce que pourrait être un mode facile dans Sekiro? Parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait simplifier. Est-ce que je pourrais simplifier l'exploration en te mettant plus d'items pétés à droite à gauche? Bah, la frustration d'avoir un item de merde quand t'as passé un quart d'heure à regarder où il faut aller passer, etc., pour réussir à l'avoir, ça fait partie du délire. Qu'est-ce que je pourrais simplifier d'autre dans le jeu? Je pourrais faire en sorte que les ennemis me tapent moins fort et que moi je tape plus fort sur eux. Alors oui, ça ralentirait, ça diminuerait la difficulté des combats. Moi je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait éventuellement jouer. Parce que l'autre truc sur quoi on pourrait discuter, ce serait la difficulté des combats des boss. En fait, les combats de boss, tous à leur manière, ils vont tous t'amener à maîtriser plus ou moins les principes de gameplay du jeu, qui vont être la parade, l'esquive, etc. Que faire, dans quelles conditions et quelle palette de coups tu as à ta disposition pour répondre à ce que tu vas avoir en face de toi, en sachant que chaque boss quasiment a une astuce très facile pour le dégommer. Et donc moi je pense que si on part sur un mode facile, oui, on simplifierait les patterns d'attaque des ennemis. Mais non, là il faudrait pas partir là-dessus, parce que tu changerais l'essence de ce qu'est le jeu. Alors peut-être faire en sorte qu'il faille leur mettre 5 coups de moins pour les tuer. Oui, là, ok, peut-être, pourquoi pas. Mais il faut toujours que lui, il soit toujours aussi chaud à avoir et que ton attaque, elle soit aussi chaude à placer. Parce que à partir du moment où tu simplifies ça, les patterns, les réactions ennemies, le jeu n'a plus d'intérêt, en fait. En vrai, tu roules dessus. Tu lui roules dessus. Il y a plus vraiment de... C'est juste de la gestion, en fait. Ça devient de la gestion après. Et ça serait beaucoup moins intéressant. Et donc, si mode facile il devait y avoir dans Sekiro, je pense qu'il faudrait plus jouer là-dessus sur la jauge de vie, en fait, et les dégâts d'attaque et de défense, mais pas sur le reste. Faudrait que le jeu reste aussi difficile qu'il est, parce que sans ça, justement, que ce soit Bloodborne, Souls, Sekiro, quand tu arrives à vaincre la difficulté, ça te procure cette sensation d'accomplissement, et c'est avec toi-même que tu l'accomplis. Moi je m'en fous, bon, j'aime bien les trophées machin etc, mais en vrai je m'en tape de dire ah je suis allé plus loin que toi et je l'ai fini plus vite que toi. Ça je m'en fous. Non, au contraire, c'est intéressant.
Toi tu peux prendre ton temps du moment que
moi en plus je triche dans ces jeux là et tout. Enfin, dès que je peux tricher, dès que je peux exploiter un truc, je l'exploite, je absolument sans vergogne.
T'es une fouine, en fait.
Dans ces trucs là
je savais, toi, ça.
Ah, Sekiro, ouais. Il y a une petite astuce, par exemple, il y a pas mal de boss qui tu peux arriver à les faire sortir de leur zone de combat. À partir du moment où tu arrives à les faire sortir de leur zone de combat, ils t'attaquent plus.
Ah, ils ont plus IA.
Donc tu vois, il y a plein de techniques comme ça qui te permettent de gruger avec le jeu. Pareil, si des gens le trouvent trop dur, il existe toutes ces méthodes là par exemple, il y a un boss très compliqué. Alors attention, spoiler pour ceux qui ne veulent pas. Non, pas le Yeti. Ah,
spoiler alert.
Par exemple, le boss qu'on voyait dans la démo Gamescom déjà à l'époque, la moine corrompue, qui m'a fait m'arracher des cheveux. En fait, il y a une technique pour la trichotte. Voilà, quasiment. Tu la gruges, c'est-à-dire qu'elle a une animation qui met du temps, elle arrive par les airs dans le niveau, elle se pose au milieu du pont, toi tu fais le tour par les arbres vite, et en fait elle a pas encore fini son animation où elle se relève, paf, tu lui sautes dessus, tu lui tues sa première barre de vie, ensuite elle a une deuxième attaque où elle disparaît, elle devient une espèce de fantôme.
Mais spoil pas tout, oh.
Ouais, ben on l'a prévenu, hein.
Ah, mais
ouais.
Tu vois tous les exemples que tu donnes depuis tout à l'heure, c'est pas du skill.
Non,
c'est tu gruges pour que ça soit le plus simple possible.
Est-ce que les développeurs, ils ont pas prévu ce genre de truc?
Bien sûr que si, ils l'ont prévu. Bien sûr que si. Regarde, dans tous les Souls, il existe un glitch pour.
Ouais, voilà. Donc c'est fait exprès.
Et voilà. Dans Bloodborne, il a été corrigé, mais tu reprends un Demon Souls ou un Demon Souls, par exemple, le glitch n'a jamais été corrigé. Tu vois. Donc non, il y a des trucs comme ça, c'est un peu fait exprès, justement, pour te permettre de.
Alors donc ça... en fait, le mode easy existe déjà.
À toi de le trouver, par contre, c'est ça? C'est ton mode easy que tu dois découvrir.
En gros, il y a une technique contre chaque boss, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que si tu regardes cette méthode dont j'ai parlé là contre le moine corrompu, tu vas voir une vidéo sur internet, tu viens de passer 2 heures à te faire rétamer, tu l'as au premier essai. Hein.
D'accord.
Ah ouais. Tu vois? Mais vraiment. Et tous les boss sont. Bon, il y en a certains, ils sont un peu plus chauds que ça quand même. Même en ayant la bonne technique, il va falloir.
Il faut quand même un peu de skill.
Un peu de skill. Ouais. Mais ouais. Et donc, est-ce que. Enfin. Non, moi je pense pas que ce serait une bonne chose de mettre un mode facile dans Sekiro. Ça abîmerait un peu le truc. Et il y a pas mal de gens qui font le parallèle avec Bayonetta, j'ai remarqué. Moi je les mets pas du tout dans la même case. Ce n'est pas du tout le même plaisir d'accomplissement. Même finir un Bayonetta en hard, c'est pas du tout la même chose que finir un Sekiro. Il y a un esprit beaucoup plus arcade, beaucoup plus score.
Oui, je suis d'accord. Mais c'est un anti-Bayonetta, Sekiro. Ah oui.
Non, mais pas de comparaison. C'était Bayonetta, pas une comparaison en termes de style de jeu.
Bien sûr.
Ce sont juste des jeux qui peuvent, non, si tu fais le choix,
dans leur
proposer une expérience très difficile. Tu
dans leur difficulté, je veux dire. Et c'est là où c'est très. Enfin, de toute façon, un beat'em all, c'est. C'est la première fois que tu l'as fini, que tu le commences vraiment. Sekiro, ça aussi, tu pourrais peut-être dire la même chose. Hein. C'est-à-dire que la première fois que tu vas finir Sekiro, ça t'aura pris, je sais pas, moi j'estime entre 50 et 100 heures. Faudra avoir les retours des joueurs, etc. Même, ouais. Savoir combien tous. Moi, ça m'a pris à peu près ce temps-là. Hein. Je dirais entre les deux. Il n'y a pas de chrono, donc je sais pas exactement. Ton deuxième run, tu vas le finir en 5 heures. Hein. 5 heures. Ah oui, tu vas rouler sur le jeu. Pourquoi ? Parce que tu as appris.
On a vu une vidéo ce week-end où le mec il fait tous les boss sans se faire toucher.
Et le jeu il est bien fichu dans cette truc-là. C'est-à-dire que en gros les boss sont vraiment de plus en plus difficiles. Et tu apprends à jouer au fur et à mesure. Est-ce que tu as appris le mouvement que tu as appris, la parade, etc. à placer à tel moment. Et puis, ah bah tiens, peut-être que j'ai placé une parade, puis une attaque. Puis peut-être que je vais saccader le rythme de mes attaques pour voir, etc. Bah, toutes ces choses-là que tu vas apprendre en jouant. Pour essayer, en fait, tu vas à tâtons contre tes boss. Ouais, au début, ils te défoncent, puis au bout d'un moment, ah bah tiens, ça marche à peu près. Tiens, tu apprends, et c'est vraiment voilà. Ça t'apporte de plus en plus de,
mais je vois pas en quoi ta façon de
plaisir
de voir le jeu
de...
et un mode facile sont en opposition. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est surtout ça,
parce que je veux dire que la fin ça se mérite.
Tu finis en mode facile, mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait.
Toi, tu l'as eu comme tu voulais le faire, et les autres laissent-les en profiter comme ils ont envie. Tu vois,
c'est ça, ils veulent pas.
Moi, j'ai terminé tous les Yakuza en légendaire, dont un qui m'a donné vraiment beaucoup de fil à retordre, et jamais j'irai reprocher à des gens d'y jouer en facile. Et même au contraire, parce que ça permet, un mode facile, ça pourrait permettre aux jeux de From Software de s'ouvrir à un public encore plus grand et de devenir encore plus populaire et potentiellement avoir encore plus de budget pour leur jeu à venir. Enfin, j'arrive vraiment pas à comprendre en quoi ça enlève quelque chose à votre expérience de jeu s'ils ajoutent un mode facile. Surtout que, et en plus là, l'idée c'est pas de les forcer à le faire, hein. C'est si From Software veut continuer à faire comme ils font actuellement, libre à eux. C'est si il décidait d'ajouter un mode facile, c'est pas, enfin, j'arrive vraiment pas à comprendre en quoi ça gâche l'expérience pour ceux qui jouent tel que ça existe actuellement. Je comprends pas. Là, c'est vraiment, ça me dépasse.
Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été pensé comme ça, qui a été pensé pour être dur et qui a été pensé pour te. Pour te récompenser via l'achievement, la réussite dans cette difficulté.
Ça peut être dur de différentes manières.
Voilà. Et franchement, sincèrement, tu enlèves la difficulté à Sekiro, le jeu, à part, c'est une belle balade, quoi. Ça devient une belle balade. D'accord. Ouais, avec de l'exploration et tout, c'est cool. Mais après, au niveau des combats, bah non, tu ressens plus le plaisir d'avoir vaincu.
Puis t'as l'accessibilité aussi, hein, de manière
ça,
générale.
Et ça, c'est un débat sur lequel les choses ont glissé, ouais. Progressivement. On s'est éloigné de la seule facilité, donc du mode facile, pour passer à l'accessibilité. Et ça, c'est un autre problème, parce qu'il y a des gens qui expliquaient que physiquement, faire ces opérations répétées d'une certaine manière pendant des heures et des heures, c'est physiquement douloureux en fait.
Ah mais le SRB
et donc,
l'ORS conseille des pauses de 15 à 20 minutes
heures.
Toutes les heures.
Et donc,
écrit au début du jeu quand tu le lances.
Parce que quand tu as certaines situations de handicap, il y a certaines façons de tenir les manettes, etc. qui sont gênantes.
On va dire qu'il faut du temps pour ce genre de choses. C'est certain.
Et là, le dernier à s'être exprimé là-dessus, c'est Cory Barlog, le réalisateur de God of War. Quelqu'un lui a envoyé un tweet pour lui dire pour moi je vois c'est le tweetos qui dit ça, moi je vois les jeux comme de l'art, ajouter un mode facile ou de l'accessibilité ça dénature l'œuvre et le truc a été fait de cette manière là et pas de cette manière là avec accessibilité. Et Cory Barlog a dit que pour lui les questions d'accessibilité l'avaient jamais provoquer à inciter à compromettre sa vision pour le jeu. Donc selon lui Les deux sont compatibles. Tu peux respecter la vision du créateur du jeu tout en proposant des options de, d'accessibilité.
Après, est-ce que...
Ce que Jean-Pierre Calaf disait aussi pour Bayonetta.
Bien sûr, mais après, si les développeurs ne les mettent pas dès le départ, c'est que peut-être ils n'avaient pas envie.
C'est comme les sites qui mettent des notes et qui, d'autres qui ne mettent pas. Voilà. Ouais. C'est un parti pris dès le début. Et... Bah, pas de notes pour nos jeux, donc démerdez-vous.
Bon, en tout cas, on est pas les... est-ce qu'on est des true gamers ici? Est-ce qu'on arrive sur Twitter en disant à quelqu'un qui a fini un jeu en facile, qui s'est menti à lui-même, qu'il a triché?
T'es une sous-merde.
Voilà, mais c'est, mais oui, il y a un mouvement comme ça avec un hashtag TrueGamers où des mecs arrivent. Tu dis, ah tiens, j'ai fini tel jeu, etc.
Mais tu sais que c'est.
Grâce à
tout le monde sait que les vrais jeux,
les mecs,
ils
arrivent, ils te défoncent, ils disent, tu t'es menti à toi-même.
Tu as essayé de finir Cousins Ghost qui est derrière là.
Moi, je pense pas que ce soit une question de se la péter et tout aussi. Parce qu'on entend souvent ça revenir d'une espèce d'élite, de pro-gamer, machin et tout. Moi, je sais pas, je m'en fous. Ok, j'ai fini Dark Souls. J'ai fini Bloodborne, j'ai fini machin, j'ai fini truc, j'ai platiné tel jeu, mais je suis content de l'avoir fait, mais pour moi-même, je m'en fous, je vais pas aller l'étaler sur la place publique. Et
ah, c'est en termes de
patinage, t'es une merde.
T'en as pas qu'un.
Enfin, ouais, non, c'est vraiment pas pour ça.
Mais ça, c'est super beau comme conclusion. C'est un
accomplissement, voilà, c'est quelque chose dont je suis fier, et au contraire, si quelqu'un va y arriver lui aussi derrière, bah, bienvenue dans la famille, bravo, toi aussi, t'as réussi, et au contraire, voilà. Donner envie aux gens de se plonger là-dedans, etc. Et oui, c'est comme ça que ça se joue, malheureusement. Oui, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est une porte qui ne s'ouvre que pour les plus valeureux,
que
malheureusement.
Pour les vrais.
Ouais, c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Il a raison. C'est désarmant la façon dont tu le dis.
Tu crois que c'est seul les vrais savent ou pas?
Ouais, peut-être.
Voilà. Et alors, attends, je voulais dire un dernier truc que j'ai oublié. Mince.
Bah ouais, mais.
Il faut s'y mettre. Moi, tu sais,
mais
au
tu
début.
Peux pas forcément
au début,
j'ai pas
mis mettre. Mais moi, j'étais nul. Hein. Tu sais, Dark Souls, j'ai mis un moment à m'y mettre. Hein. J'en ai eu. Je m'y suis mis que quand j'ai eu le troisième jeu. C'est-à-dire, j'ai acheté le premier Demon Souls. J'ai acheté le deuxième Dark Souls. Mais il a fallu un moment pour que je me. Au début, j'ai failli rage quit. C'est-à-dire, les deux premiers jeux, j'y joue en dilettante comme ça, vite fait. Et quand je me suis mis sur le troisième, le vrai, mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Non, mais t'as peut-être gagné des skills entre temps.
Waouh! Et.
Pourquoi c'était facile?
Et non, en fait, j'ai insisté parce que moi, ça me plaisait pas de perdre contre cette machine là. Et je me suis battu, j'ai appris. J'ai appris à la dure, j'ai appris, j'ai triché beaucoup. j'ai beaucoup triché.
Bienvenue dans la famille. Hein.
Je suis allé voir des solutions sur internet pour m'aider, etc. Et au final, quand j'ai réussi à. Oh putain, j'y suis arrivé quoi! Merde, et c'est une vraie nature. Et après, je suis revenu par moi-même, c'est-à-dire, j'ai pas attendu qu'on me dise, enfin, non, ah ouais, il y en a un autre, ah vas-y, vite, je veux, voilà, pour avoir cette sensation de pas d'accomplissement en fait. T'as pas la main sur la machine, le jeu il est dur.
Mais je crois qu'en fait, Johnny, il veut que les gens partage la même sensation que lui en fait.
Ouais moi voilà, c'est
dans
ça que
sens.
Je veux. Moi je veux que les gens ils... Moi j'étais nul au début, hein, crois pas, hein. J'étais nul et j'ai même failli rage quit la série. C'est-à-dire à un moment j'ai dit non, c'est pas pour moi, j'arrête. Ça fait 8 heures, je suis sur le même checkpoint, c'est bon, allez vous faire voir. Et au final j'ai insisté et c'était parti.
Un monde
nouveau s'est ouvert à moi. Un monde merveilleux, empli de douleur. Voilà.
Mais là encore, tout le monde peut pas forcément consacrer le
temps. Après c'est
ça.
Très chronophage.
Bah, je l'ai pas, mais quand
je vais venir,
c'est Sekiro, pour moi qui va prendre sa race.
C'est un gros problème. Mais pour un peu revenir, un peu finir sur ce débat, donc moi j'ai pas mal de potes assez fans de Souls comme moi, donc on en parle beaucoup du jeu de Sekiro. Bah tous les gros fans de Dark Souls pour l'instant ils l'ont un peu mis de côté, délaissé tomber.
C'est trop dur.
Ouais.
Ah bah ouais, mais bon après.
Donc ils ont pas dit je vais le lâcher et tout, non, c'est des discours, un me dit c'est trop dur et du coup là je vais...
Et tu leur as demandé si à eux s'il y a un mode easy ça les arrangerait?
Non, je pense qu'ils en voudraient pas non plus, ouais. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir à un moment se remettre dessus quand ils auront plus la tête à ça, ils se sont pris une première baffe par le jeu là. Et voilà, après c'est un jeu qui demande de l'investissement, qui demande du temps, c'est pas forcément compatible avec de la... C'est pas forcément compatible avec, je sais pas moi, une vie de famille, un travail, etc. Parce que oui, Sekiro, ça va te demander, comme je t'ai dit, entre 50 et 100 heures, rien que pour, je pense, en voir le bout la première fois.
Moi, il y a que les Yakuza à qui je... j'accorde autant de temps.
Bah c'est un...
3000 heures.
Dark Souls et Bloodborne étaient des RPG, celui-là n'est plus vraiment RPG, mais en termes de durée de vie, on reste sur quelque chose d'assez similaire. Voilà.
Et bah voilà, hein, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Mais effectivement, tu avais noté plus pas mal de jeux qui.
Mais c'est toi qui as préparé, qu'est-ce que tu racontes?
Qu'utilisais. Merde, je viens de me démasquer. Merde. Oui, enfin, quand je t'ai aidé, tu te rappelles.
Ah oui, moi je t'ai fait d'autres idées, j'ai oublié.
À mon cerveau.
Plume, j'ai une idée.
Fatigué. Oui, tu avais mis pas mal de titres justement qui avaient eu recours.
La Céleste, parce que déjà son créateur s'est exprimé sur Twitter. Ouais. Pour, en plus, il a exposé des idées pour rendre justement Sekiro plus facile d'accès. Parce
qu'il a dit le même truc que moi.
Quelques à des paramètres différents en fait. Tu décides quelle partie tu veux adoucir pour pouvoir justement explorer et progresser plus facilement. Lui, il s'est exprimé là-dessus.
Et soulager un peu le joueur.
Et voilà, et le mode assisté de Céleste, ça rend pas le jeu. Enfin, t'es pas une sombre merde parce que t'as utilisé.
Non, mais voilà, c'est toujours super. C'est ça le truc, c'est que tu peux, t'as plusieurs manières de faire, quoi. T'as plusieurs positions que tu peux adopter. Et ce débat-là, il est pas nouveau. Hein. Comme on dit avec New Super Mario Bros., Bayonetta, etc. Bien et sûr. C'est le même truc à chaque fois.
Bon, à part FIFA, le mode simplifié, je crois que tout le monde s'en tape. Jouer avec deux boutons, ça n'a jamais empêché qui que ce soit de s'éclater dessus. Donc,
oui, tout à fait. Ça, tout dépend des jeux.
Après,
en fait,
il y a un autre truc qu'on peut dire aussi, c'est que donc Sekiro, moi, je le mets plus dans la série des Dark Souls et Bloodborne. Pour moi, c'est un jeu qui est très différent, qui est à part, qui a pas sa difficulté au même endroit, mais qui reste quand même un petit peu dans la même famille. C'est le cousin, lui. Voilà. Bloodborne et Dark Souls, son frère. Lui, c'est le cousin.
Cousin Germain.
Ça fait partie un peu de leur ADN, toute cette difficulté. Et s'ils l'adoucissaient.
Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ils vont pas changer. Quoi.
Mais non, s'ils l'adoucissaient, on les traiterait de vendus. Ouais. On dirait que. Enfin,
il y aurait la polémique inverse.
Il y aurait la polémique inverse.
C'est ça, exactement.
Voilà, il y aurait.
Mais cette polémique-là, en 3 jours, elle est finie.
Mais Hidetaka Miyazaki a quand même dit qu'il préférait que ses jeux soient fun plutôt que considérés comme trop durs. Donc peut-être que lui aussi, il est le président de From Software. Qui est le papa de Dark Souls, etc. Lui, il s'est exprimé il y a très longtemps sur ça et que s'il y a besoin de changer, peut-être qu'ils vont changer. Peut-être. Mais après,
regarde, ils ont fait.
Là, pour ça, c'est tout le monde. C'est vrai que tout le monde, de par le monde, parle de ça depuis plusieurs jours. On n'a pas d'avis récent
tranché
de From Software. J'aimerais bien qu'ils s'expriment sur la question. S'ils disent allez vous faire foutre, on reste comme ça, bah, ils resteront comme ça, c'est leur choix. Mais au moins savoir ce que. Parce qu'on parle, on parle, et on ne sait pas ce que.
Surtout que c'est impossible de résoudre.
Ils ont quand même fait vachement d'efforts d'accessibilité vers le grand public, entre guillemets.
Oui,
avec
ça a quand même du succès,
beaucoup
quoi.
Plus de narration dans le jeu. C'est beaucoup moins cryptique. Dans un Dark Souls, démerde-toi. Tu vas où? Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas en bas, tu vas en haut. Mais démerde-toi. Là, ici, on te guide quand même pas mal. Il y a. Dans ces termes-là, on te prend beaucoup plus par la main que dans un. Donc le jeu est plus facile en soi là-dessus.
Plus facile d'accès. Ouais.
Voilà, plus facile d'accès sur ce niveau-là. Sur le en mode, on te prend par la main, on te dit où aller, on te dit quoi faire. Dans un Dark Souls, non, on te dit rien du tout. C'est débrouille-toi.
Donc ils ont quand même un petit peu évolué.
Ouais, ils ont un peu évolué quand même. Bon, après, les combats sont 10 fois plus durs. Mais bon. C'est une autre histoire.
On peut pas tout avoir. Bah, écoutez,
bon, quand je l'aurai fini dans 3 ans, en tout cas, je reviendrai.
Il y aurait eu 3 Sekiro.
Il y aura peut-être eu le DLC depuis. Peut-être que le DLC t'aidera à récupérer. Alors, il y a du mode hardcore plus. Hein. Tu peux aller jusqu'à 7 New Game.
7 New Game plus.
Ouais. Putain.
Ouais, tu peux jouer avec un bandeau sur les yeux
aussi.
Ouais,
et les mains attachées dans le dos.
Alors, j'ai pas les stats des mobs et tout avec 7 New Game plus, mais à mon avis, ils doivent tous te one-shot et. Enfin, à moins d'être.
Juste avec le regard. Okay, salut, je me casse.
Tu vas dans les donjons SM, maintenant ils te mettent plus des combinaisons en latex, tout comme ça. Ils te mettent devant Sekiro.
Et là, t'entends des cris de
oui, maîtresse, oui, maîtresse.
C'est un peu ça, quoi. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Enfin, on a fait le tour.
Ouais, je crois que c'est impossible de faire le tour.
Voilà, exactement. On a dit ce qu'on a voulu dire là-dessus, mais comme dit Johnny One, c'était un vaste débat. Bah, vous pouvez toujours.
Est-ce que je peux avoir le mot de la fin quand même, un petit mot positif?
Ah oui, bien sûr.
Juste un petit résumé.
Alors, Sekiro, c'est un cousin.
Non.
C'est un zincou de Mohamed qui parlait.
Juste pour dire que ceux qui trouvent que c'est trop dur, voilà, c'est un plaisir.
Merde.
Non,
ne jouez pas. Lâchez la manette.
Moi je le comprends. Moi je le comprends. Arrêtez les
jeux vidéo, bande de cons.
Mais faut savoir que les Dark Souls, les Bloodborne, les Sekiro, ce sont des jeux qui offrent un plaisir fou quand on arrive à en voir le bout, mais que ça demande de l'investissement. Qu'on sait que c'est un investissement qui ne peut pas être demandé à
rentable.
Tout le monde. Non, pas être demandé à tout le monde, mais si vous aimez jamais vous avez la possibilité de le faire, allez-y, faites-le, vous ne le regretterez pas, car ce sont des jeux fantastiques et merveilleux. Voilà.
Voilà, bah écoute, Johnny One, c'était le mot de la fin, fort poétique. sur ce premier thème du podcast, donc la difficulté dans Sekiro et dans d'autres jeux évidemment auquel tout le monde ici n'a pas forcément joué parce que c'est trop difficile justement. Le second thème de la semaine, n'est-ce pas mon cher Romain?
Oui.
C'est ton fameux jeu Gombrel Z.
Gombrel Z.
Super Gombrel Z. Super Gombrel Z. Ça, alors là, je suis désolé.
Donc, c'est vraiment de merde. Hein.
C'est vraiment de la private joke. Si vous venez à la rédac un jour, on vous expliquera voilà. Peut-être, hein, peut-être d'où ça vient.
Abonnez-vous premium, on vous dira tout.
Mais en tout cas, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Gombrel Z ici. Super Dragon Ball Heroes World Mission, c'est le premier jeu issu de Dragon Ball Heroes à sortir en Occident. Donc, pour les fans de Dragon Ball, c'est un petit peu un événement parce que c'est quelque chose que certains d'entre nous réclamions depuis des années et des années. Dragon Ball Heroes, à la base, c'est un jeu d'arcade qui a commencé au Japon en 2010. Donc, ça fête ses 9 ans cette année. Et c'est un jeu qui utilise en arcade des cartes à collectionner. Chaque carte correspond à un personnage, à des techniques spécifiques, à un niveau de puissance spécifique. Et là, dans la version la plus récente, en fait, tu as tes 7 personnages. Donc cette carte que tu répartis sur un plan de jeu, certains tu les mets en soutien, d'autres en attaque, etc., etc. Et en fonction des cartes que tu utilises et du placement sur la map, tu utilises plus ou moins de puissance. Faut parfois que tu mettes des personnages au repos pour que leur endurance remonte, parce que tu peux pas les mettre non-stop en attaque, parce que sinon ils s'épuisent, et quand ils sont épuisés, et ben ils sont plus vulnérables. Et c'est donc un jeu au tour par tour, tactico RPG avec l'aspect collection de cartes. Et moi je trouve que sur Switch ça marche vraiment bien. C'est curieux à dire, mais c'est un jeu qui m'a dépaysé. C'est parce que dans son interface,
ça change de Sekiro.
Clairement, dans son interface, dans sa manière de mettre en scène les attaques spéciales, les événements in game, etc. Ça m'a transporté dans une salle d'arcade au Japon. C'est des gimmicks, des choses qui se manifestent dans le jeu qu'on voit dans aucun autre jeu auquel on a l'habitude de jouer, et encore plus dans les jeux Dragon Ball, parce que c'est vraiment différent. Tu sais, quand tu joues à un jeu d'arcade, des fois, t'as des petits events temporaires où tu vas devoir faire un truc super vite ou truc comme ça. Et là, dans Dragon Ball Heroes World Mission, il y en a plein. Et franchement, j'avais vraiment l'impression, en plus, à utiliser l'écran tactile de la Switch. Bon, quand tu joues.
S'il faut remettre une pièce, si tu arrêtes. Ouais,
quand tu joues sur ta télé, évidemment, l'équivalent avec la manette est faisable. Mais quand tu joues sur ta Switch en portable, il faut utiliser sans arrêt l'écran tactile. Et franchement, t'as l'impression de jouer à la bande d'arcade Dragon Ball Heroes. Et c'est vraiment. Enfin, c'était des paysans. Ça change de tous les jeux Dragon Ball auxquels on a l'habitude de jouer. J'ai trouvé ça super cool. En plus, c'est bourré de fanservice. Ce qu'il faut savoir, que dans le jeu de base, et il n'est pas du tout question de DLC là. Mmh. Dans le jeu de base, il y a plus de 1000 cartes à collectionner. Mmh. Et c'est long, c'est très très long à débloquer. Tu peux en plus de ça créer tes propres cartes de puissance variable et avec des techniques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être gérées par le joueur. Oui, Johnny.
Est-ce qu'on pourra acheter des vraies cartes et les scanner avec
collector.
Le truc de la Switch?
Pour l'instant, c'est pas. Il n'y a pas d'appareil photo dans la Switch.
Il n'y a pas d'appareil photo dans la Switch?
Il y a une caméra dans la Switch. Tu peux faire de. Attends, moi je suis pas fou quand même. J'ai l'impression qu'il y a une petite caméra en haut là.
Ou c'est un capteur de luminosité peut-être.
Je sais pas, parce qu'il me semble pas avoir vu de jeu ou d'application qui utilise
ça.
Pardon. Pardon,
ça va bien avec la VR.
Mais en fait, t'as pas besoin finalement de créer tes propres cartes, parce qu'il y a déjà avec des illustrations extérieures, parce que de base, il y a tellement d'illustrations in-game et de possibilités que t'as vraiment, tu peux vraiment faire une tonne de trucs et tu peux superposer les illustrations. Moi, je suis un peu nul je suis pas un artiste. Mais je sais déjà que les joueurs de Super Dragon Ball Heroes World Mission vont faire des cartes absolument magnifiques. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux associer des attaques à des personnages qui ne les utilisent pas normalement dans le jeu. Tu peux vraiment faire les choses à ta sauce, et ça c'est cool.
Est-ce que les fans de cartes Dragon Ball, hein, parce qu'il y en a encore, hein, moi j'étais fan, c'était il y a une vingtaine d'années ça. Est-ce qu'ils vont y trouver leur compte dans ce jeu-là?
Bah t'as le côté collectionnite un peu. Quand t'es sensible souvent, à ça dans un jeu, là ça marche. Ça marche très bien. En plus, ce qui est cool, c'est que, évidemment, les superstars que sont Goku, Vegeta, Gohan, tout ça, ils sont extrêmement bien représentés à tous les niveaux de leur vie. Par exemple, t'as Goku, ça va de Goku petit dans Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super, et même il y a des cartes, de nombreuses cartes qui sont tirées des précédentes versions de Dragon Ball Heroes qui sont jamais sorties chez nous, tu vois. Donc en termes de contenu, c'est massif. Et t'as aussi des personnages beaucoup plus obscurs. T'as des membres de l'armée du Ruban Rouge de Dragon Ball, des dieux de la destruction Dragon Ball Super. En fait, je dirais pas que t'as tous les personnages de Dragon Ball qui sont représentés dans le jeu, mais on doit pas en être très loin, tu vois. Il y en a vraiment énormément, et t'as plein de types de techniques. Par exemple, on va dire que si t'as Goten et Trunks dans ton équipe, au bout d'un moment, tu vas pouvoir activer la fusion.
Oh,
et
donc ça, qui est à l'écran.
Ouais, t'as Opai Pai, tu vois.
T'as Opai Pai.
Si vous avez l'image, ouais, vous voyez tout
et
ça.
Et donc tu vas pouvoir déclencher une fusion. Si t'as d'autres cartes qui utilisent le Genki-Dama, tu vas pouvoir déclencher un Genki-Dama, mais ça nécessite une opération différente. Moi, dans mon équipe, l'équipe que j'utilise beaucoup, j'ai Goku petit. Et au deuxième round, parce qu'en fait les combats se font en 5 rounds, tu peux les terminer avant si la barre de vie de l'adversaire ou la tienne arrive à 0, mais les matchs peuvent pas durer plus de 5 rounds. Et par exemple, avec Goku, la carte de Goku petit que j'ai, au deuxième round, ça déclenche un event, et là tu dois faire tourner ton doigt sur l'écran tactile, et si tu arrives avant la fin du temps imparti, Goku se transforme en Uzaru. Et donc, c'est-à-dire le gorille, enfin le singe en singe géant, et ça lui permet d'utiliser des attaques spécifiques, faire plus de dégâts et d'avoir une meilleure endurance. Et à côté de ça, t'as des invocations, t'as énormément, oui, tu peux invoquer Shenron pour faire des vœux quand t'as certaines cartes. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer en cours de combat, et il y a tellement de cartes que chaque joueur aura son propre deck en fonction de ses habitudes de jeu et de ses préférences en termes de personnages, et ça donne une durée de vie quasi illimitée au truc, tu vois. C'est extrêmement généreux en contenu et en possibilités. Comme première initiation occidentale à Dragon Ball Heroes, on pouvait difficilement avoir mieux que ça. Ouais, Johnny.
Moi, j'ai encore une question sur les cartes physiques, en fait.
Allez-y, monsieur.
est-ce que le design des cartes dans le jeu reprennent le design de cartes existantes?
Ouais. Évidemment.
Oh, c'est génial.
Toutes les cartes que tu as sont les cartes que les gens au Japon pouvaient avoir. De toute façon, tu regardes les cartes.
Les cardas, là.
Elles sont écrites en japonais. Les textes sont beaucoup trop petits sur la carte elle-même pour être traduits, mais toutes les cartes qui apparaissent sont des cartes disponibles au Japon.
C'est génial.
Alors, après, il y a deux petits défauts que je souligne dans ce jeu, mais qui gâchent pas finalement
le troll.
C'est pas en français,
d'ailleurs. Hein ? C'est pas en français.
Si, c'est en français, mais ça fait partie des défauts, parce que pendant tous les combats, t'as les commentaires, enfin une sorte de commentaires qui sont faits par Trunks et qui explique ce qui se passe, qui te donne des conseils, etc., ou qui te parle même dans l'interface du jeu. C'est pas traduit. Donc tu l'entends parler en japonais, mais t'as aucune indication sur ce qu'il est en train de dire. Par contre, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tiré d'un trailer en anglais. Tout ça, tous les textes sont écrits en français.
Il y a des efforts qui sont faits actuellement dans la localisation. Alors c'est assez bizarre, mais c'est dans Senran Kagura, moi, que j'ai vu ça, où tous ces petits onomatopées de circonstances, tous ces petits machins-là étaient entièrement tous traduits avec des fois des sous-titres dans des lieux un peu pas approprié, on va dire, mais tout était traduit. J'avais trouvé ça assez génial.
Là, tu vois,
je comprends ton désarroi devant ça.
C'était tellement inespéré que Bandai Namco sorte un Dragon Ball Heroes chez nous, parce que comme je disais, c'est une série qui existe depuis 9 ans et ça arrive que maintenant chez nous. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu frileux, parce qu'ils savent, comme c'est un jeu avec un gameplay très spécifique et que les fans de Dragon Ball, les plus grands publics, on va dire, aiment avant tout les jeux de baston, ils se sont dit on va quand même y aller relativement mollo en termes de localisation. Donc tout le mode histoire est localisé, tous les menus sont localisés, donc tu comprends le jeu clairement, mais tous les petits dialogues audio en cours de partie et dans les menus, ne sont pas traduits. Et donc mon deuxième problème que j'ai vis-à-vis de la localisation, c'est que la localisation déjà a été faite à partir de la traduction en anglais. Donc des fois il y a des traductions, moi je les reconnais, des traductions, des expressions idiomatiques en anglais qui ont été traduites telles quelles en français. Ouais. Donc ça donne des phrases qui n'ont strictement aucun sens.
Oh, il pleut des chats et des chiens.
Donc oui, c'est un truc typiquement un truc dans ce délire là. Et il y a aussi des fautes, tout simplement. J'ai fait quelques captures d'écran, je les mettrai dans mon test. Les phrases ne veulent strictement rien dire. c'est assez space.
Si c'est de l'anglais traduit du
Est-ce
japonais.
Est-ce que c'est du niveau du
traduit du français?
C'est du niveau de Dragon Ball NES ou pas?
Non, c'est
Je ne sais guère.
Non, c'est, Je dirais que c'est mieux parce qu'il y a quand même beaucoup plus de texte.
Avec les balles du dragon.
Mais il y a quelques petites phrases gênantes. C'est vrai que c'est aussi, il y a des tournures, des formulations qui correspondent pas du tout au personnage.
Inappropriées. Ouais.
Ils parlent de manière
avec une syntaxe qui n'est pas à l'heure.
Ouais, ils expriment des choses.
Ouais.
J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui a posté une capture d'écran de la version en anglais. Et il y a Majin Buu le gros, hein, qui est quand même pas le personnage le plus intellectuel de Dragon Ball,
bon, cool.
Qui dit God help us all. Que Dieu nous vienne en aide, ouais, c'est non, pas trop le genre de truc que Majin Buu dirait. C'est donc ça, c'est un petit bémol. Et le deuxième bémol, c'est un peu au niveau de la réal, parce que le jeu est pas super beau. Alors on sait que les
ça
bornes
pas l'air trop moche là de ce qu'on voit.
On sait
en
que
vidéo,
les bornes Dragon Ball Heroes pendant longtemps tournaient à l'aide du moteur de Budokai 3. Légèrement modifié. Bah là, on est un peu dans la version plus de ça. Tu vois, c'est un petit peu plus beau, mais on en est pas très loin malgré tout. Donc oui, c'est pas. Et les personnages pendant les cinématiques, quand ils se parlent, tu sais, c'est les mouvements un peu génériques, là, répétés 3000 fois.
C'est sûr
qu'au
niveau des animes, c'est pas la fête du slip.
Mais globalement, ces petits bémols ont pas gâché mon expérience de jeu. J'ai passé un super moment et en plus, je sais que je vais pouvoir continuer d'y jouer parce que outre le mode ou le mode histoire non, je crois pas qu'il y ait de mode facile, mais toutes les équipes évidemment que tu affrontes n'ont pas le même niveau de difficulté, tu vois, et plus tu vas débloquer de cartes, plus tu vas pouvoir faire des équipes puissantes et adapter des choses, et tu te rends compte que certains pouvoirs sont bien compatibles entre eux, donc tu vas créer tes propres enchaînements, etc. Mais outre le mode histoire, t'as le mode arcade qui reprend des combats issus de vieilles versions de Dragon Ball Heroes, donc ça ajoute encore du contenu. T'as le mode tournoi, t'as les modes en ligne, etc. Tu peux créer tes propres mission. Donc si le concept de Dragon Ball Heroes vous intéresse un minimum, vous avez mais largement de quoi faire. C'est un jeu qui est vraiment bien fait pour ça. Ah, et j'ai oublié de préciser que Dragon Ball Heroes, c'est un jeu bourré de fanservice. Donc en fait, il y a plein de transformations et de transformations et de fusions, etc., qui n'existent pas dans la mythologie officielle. Parce qu'en fait, Dragon Ball Heroes, c'est comme un univers spin-off de Dragon Ball, tu vois. Il s'y passe d'autres choses. Il y a une base commune, mais il y a plein de choses en plus. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez avoir un Végéto Super Saiyajin 3 qui n'existe pas dans la série. Il y a Gotenks adultes, par exemple, qui n'existaient pas dans Dragon Ball GT ou dans Dragon Ball Super ou des trucs comme ça. Donc il y a plein de... C'est pour ça que dans les trailers, vous allez peut-être voir des personnages qui vous disent rien, mais c'est normal parce que ce sont des persos issus spécifiquement de la mythologie de Dragon Ball Heroes. Donc pour ça. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. J'ai mis 7 en raison des petits défauts dont je parle, et du côté peut-être sur le long terme peut-être un poil répétitif du gameplay. Moi ça m'a pas trop gêné, mais je sais que ça pourrait en gêner certains. Donc voilà, 7. Mais si vous êtes fan de Dragon Ball et attiré par le gameplay de Dragon Ball Heroes et par cette expérience très japonaise, très arcade japonaise, je vous le recommande. Voilà.
Eh bien, merci bien Romain pour
ce monologue
du compte rendu du test du que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site, hein.
Super
Dragon Ball Heroes Go Brawl Z World Mission sur Switch, n'est-ce pas, qui est sorti,
et sur PC aussi. Mais moi j'ai joué qu'à la version Switch. Et,
tout à fait, qui est sorti le 5 avril, donc le test vous pouvez le retrouver sur le site sans problème. Eh bien, après ces deux thèmes, on va retrouver notre chère Plume.
Absolument.
Pour l'anniversaire de la semaine.
Et oui, l'anniversaire de la semaine. C'est un anniversaire qui effectivement est assez atypique, puisqu'on va pas parler de Nintendo, de Sega ou de grands RPG qui nous ont bercé, qui ont bercé toute notre enfance là.
Mais...
je vais parler d'un jeu de boxe.
Exactement.
Non.
Exceptionnellement, je vais parler d'un jeu de boxe.
On n'en parle pas souvent des jeux de boxe.
Bah non, on n'en parle pas souvent du tout parce qu'il y en a plus en ce moment.
Bah,
tout le monde s'en fout, voilà. Que tout le monde s'en tape.
Bah, visiblement, ouais, tout le monde s'en fout un peu. C'est
sauf qu'il y a 15 ans, le 5 avril 2004, sortait Fight Night 2004, qui est un jeu qui restait très cher à mon cœur et à ma mémoire. Déjà une, parce que je l'ai testé pour Joypad, et de deux, parce que c'était un super jeu. Alors à l'époque, EA faisait des jeux de boxe. Ils avaient une série qui s'appelait Knockout Kings, que je prononce très mal, évidemment.
Knockout, on dit.
Knockout, ok, ouais. Donc Knockout Kings, qui était une série plutôt moyenne. Et avec Fight Night, et ben, ils sont passés à l'étape supérieure grâce à des idées. Mm. Bon, déjà une réalisation d'enfer, hein, pour l'époque, mais surtout grâce à une idée. Une idée de génie en termes de maniabilité, c'est c'est qu'ils ont installé tout le gameplay, mais alors vraiment tout le gameplay, sur les sticks analogiques.
Exactement.
Et les boutons de tranche aussi, évidemment, pour se mettre en garde et autres. Mais ils ont installé ça là-dessus et ça a été mais une révélation.
Bah oui, parce quand que c'est arrivé, super instinctif en fait.
Exactement. Quand je suis arrivé à la rédac, quand je suis arrivé à Joypad avec ce jeu, on n'a jamais arrêté d'y jouer pendant quasiment un mois et demi, que ce soit avec Kim par exemple. On s'est mais régalé sur ce jeu. Le stick gauche pour se déplacer, le stick droit avec des mouvements bien précis,
les esquives, etc.
pour faire direct, jab, crochet, uppercut, ça marchait mais du feu de Dieu. Il y a eu 5 épisodes je crois dans la série, si
ouais,
je ne m'abuse,
5, c'est ça, ouais.
Traz, et vraiment c'était vraiment un truc qui marchait excessivement bien. Il y avait d'autres idées qui étaient très bonnes, comme par exemple quand on était KO, il fallait remettre en fait plusieurs images, grâce au stick de l'arbitre qui était en train de compter. Il fallait les réaligner pour. Bah, il fallait remettre en gros, ouais, t'étais complètement KO, il fallait remettre l'image de l'arbitre comme il faut.
Dans le bon ordre. Ouais.
Y avait des boxeurs de légende dans le tas, évidemment. Il y avait un mode carrière dans lequel tu créais ton propre boxeur, tu faisais grimper tes stats au fur et à mesure en passant par différents entraînements qui étaient plutôt des mini-jeux assez intéressants. Mais vraiment, moi j'ai un souvenir génial de ce jeu, de la série de manière générale. Il y a Fight Night Champions qui est sorti en 2011. Depuis, il n'y a rien
c'était
eu.
C'était le dernier. Ouais.
Bah pourquoi, EA, vous ne ressortez pas
parce que ça ne devait pas marcher tant que ça.
Bah non, ça n'a pas marché du tout même. Pourtant, mais en tout cas...
Comme tu dis, il y avait des stars et tout. Il y avait Tyson, il y avait Mohamed Ali, il y avait des légendes.
Jake LaMotta, il y a eu Manny Pacquiao, je crois, par la suite, avec... Pacquiao, pardon.
Pacquiao,
avec d'autres boxeurs beaucoup plus récents. Et ouais, c'était vraiment une éclate. Mais c'est vrai qu'après, au niveau équilibrage, tu sentais
c'est
quand même que...
Pacquiao.
Ouais, j'arrive
Pacquiao.
Jamais à prononcer son nom.
Me dire oui, en fait, c'est ça.
Il y avait niveau des problèmes d'équilibrage avec certains boxeurs qui étaient vraiment beaucoup trop bourrins par rapport à d'autres et d'autres qui étaient beaucoup trop résistants. Johnny.
Alors,
Johnny,
moi, j'ai joué à un de ces jeux-là sur 3-6. Mm-hmm. Alors, je me souviens qu'il était très très facile parce qu'il ne sanctionnait pas le coup bas. Donc tu pouvais le petit coup en dessous de la ceinture.
Normalement tu le faisais une fois l'arbitre.
Parce que moi je sais que j'ai eu 1000 points, donc j'ai eu les 1000 points de succès sur ce jeu-là. quasiment en finissant tous mes combats en mettant des coups dans les valseuses.
Si c'était bien espacé peut-être, mais je crois que
trouver des glitches,
t'étais quand même sanctionné
pour
ce jeu.
Normalement l'arbitre t'arrêtait quand tu faisais ça et
de là me dire que c'était est-ce que tu étais sanctionné
jusqu'à être éliminé. Le jeu était justement assez connu pour ça, pour avoir 1000 points de succès super facile parce que tu pouvais tricher dans tous les combats.
Les versions suivantes en Fight Night 3.
Moi ça me dit rien, je t'avoue.
Moi je me souviens, vous allez me dire si c'est lié à cette série, de visuels avant la sortie de la Xbox 360 où t'avais des gros plans sur les boxeurs et ce qui était marquant c'était genre les gouttes de sueur.
Oui, tout à fait, ça arrivait après ça.
Mais
ça,
c'était après. Fight Night.
Mais déjà,
Fight
Night avait surtout la déformation des visages en temps réel, ils étaient tuméfiés en temps réel et toi à la mi-temps.
Ready to Rumble le faisait aussi.
À la fin d'un round, tu pouvais avec l'éponge. Tu passais avec l'éponge ou la pommade.
Ouais, tu commençais à enlever un peu de dégâts.
De comment dire, d'enlever les coupures ou.
Pour pas que ça s'aggrave et pour pas te faire arrêter par l'arbitre, etc.
Exactement.
Mais c'est surtout ce qui prévalait, c'était la technicité, quoi.
C'était
vraiment. Tu te prenais pour un boxeur, t'avais les mêmes attitudes qu'un boxeur et.
Ouais, puis regardez, pour l'époque, c'était beau, quoi. Ça sort sur Switch aujourd'hui, ça marche.
Là, aujourd'hui, c'est.
Ouais, bien sûr que oui.
Bah, le jeu a 15 ans quand même.
Ah, ça a vieilli.
Le jeu a 15 ans, hein.
Johnny.
Et au niveau de l'utilisation des sticks assez révolutionnaire dans ce jeu, ils nous ont refait le coup dans d'autres jeux sport. Notamment moi, ceux qui me viennent en tête tout de suite, c'est les skates. Très très simu, tout au stick, avec justement des mouvements super réalistes, enfin super réalistes, le plus réaliste possible, le mouvement que tu faisais faire à ton stick par rapport à ce que ta planche de skate faisait.
Il fallait être très
doux avec
n'importe quoi.
Avec cet esprit-là de la commande au stick un peu précise, etc. Ils ont réussi à nous pondre tout de même quelques bons petits jeux de sport.
À part Dev Jamicone, qui lui par contre faisait un truc avec les sticks qui était un peu moyen. Effectivement,
c'est un peu spécial ça.
Ils ont bien trouvé leur truc.
Moi, je presque sur ces deux jeux-là.
Un gros fan de Rocky et j'ai au fil du temps acheté pas mal de jeux de boxe, enfin de jeux Rocky pour le coup, et j'ai jamais réussi. Je sais pas pourquoi, les jeux de boxe, j'y arrive pas à y jouer. C'est peut-être trop habitué aux jeux de catch avec des mécaniques différentes.
Prends le Fight Night de 3-6 où tu peux mettre des coups dans les, dans les valseuses, tu vas réussir, t'inquiète.
Les jeux de boxe où tu dois justement gérer les. Les jeux du UFC, j'ai jamais réussi à cause justement de la gestion des sticks. C'est pas intuitif pour moi, curieusement.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut apprendre au fur et à mesure, quoi. Ouais. Tu peux, moi, pas, je rappelle, peux pas t'improviser boxeur ou
je
machin.
Je me rappelle que j'avais des putains de cloques sur le pouce.
Mais oui,
là,
mais moi, c'est pareil.
Force de faire les mouvements exactement. Tout le temps.
Surtout que moi, j'avais tendance à toujours lâcher le stick au bout d'un moment parce que j'arrive pas à tenir jusqu'au bout en permanence. Donc,
mais enfin, les simus de boxe, c'est un peu comme les simus de tennis, tu sais. Ce sont des genres que tu vois souvent réclamés sur, sur les forums ou sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense qu'en termes de vente globale, ça doit pas être assez important
non,
pour,
c'est pour ça
pour justifier. Comme par hasard, il y a chez Yay, comme
par hasard, il faudrait ni l'un ni maintenant.
Il faudrait un boxeur vraiment emblématique maintenant aujourd'hui. C'est
il
n'y
en a pas trop aujourd'hui. Hein.
Bah, Mayweather,
si, t'as le Floyd Mayweather. Il a,
mais c'est un sale,
c'est un
sale
peu
con.
Tous des sales types.
Il le fait exprès,
les champions
il joue
ça
d'ailleurs.
Moment.
C'est donc, vrai que c'est compliqué. Si t'as le champion anglais là, mais je me souviens plus de son nom.
Bah ouais, tu te souviens plus de son nom, donc même lui se souvient plus de son nom. Donc forcément,
si, si,
si
bah,
tu veux le vendre après sur
c'est
une
le champion du monde des poids lourds, mais.
Ah, I know, non, it's an English boxer, I don't know his name.
Mais voilà, je t'avoue que depuis Tyson, moi j'ai un peu lâché l'affaire. Moi, Mike Tyson, j'allais le voir à Bastille sur écran géant pendant ses combats, t'imagines. Sur un toit d'un immeuble.
T'es un gamer déjà,
wesh mon frère.
Sur un toit d'un immeuble, j'allais voir les combats de Tyson qui étaient retransmis à Bastille sur écran géant. Mais qui va faire ça aujourd'hui? Personne.
Mais après, ça serait peut-être le moyen justement de marketer le jeu. Genre tu fais un jeu de boxe avec le roster Dream Team avec que les meilleurs que les meilleurs combattants
de
tous
les temps.
Mais ça a déjà été fait.
Il y a pas de jeu de boxe, mais t'as droit à un jeu MMA tous les ans, non?
Ça fait un moment qu'il y en a pas eu.
Ça fait un moment qu'il y en a pas eu non plus, il me semble bien.
Tout à fait. Bon bah voilà, c'est malheureusement EA n'a pas refait de jeu de boxe et personne d'autre depuis non plus, donc à part ceux dont tu parlais tout à l'heure là, les
peut-être des trucs en VR aussi, non?
Les fameux jeux d'arcade de boxe.
Okay, Ready to Rumble.
Ouais, c'est ça, Ready to Rumble.
Bah, il y a eu sur PSVR, il y a eu le jeu Creed qui est sorti.
Oui, c'est vrai. Rise to Glory, absolument.
Qui est sorti récemment.
Je sais pas trop ce que ça vaut, mais.
Moi non plus. Mais en tout cas, il y a eu ça récemment.
Il y a eu ça au moins. Bon, bah, il y a quand même eu un jeu de boxe depuis toutes ces années. Mais c'est vrai que depuis 2011, plus de Fight Night, c'est terminé.
C'est triste.
Est-ce qu'ils vont relancer la licence un jour? Ça marche toujours par cycle, c'est ce qu'on disait tous les 10 ans. On parle de la même
peut-être
chose.
Peut-être qu'il y en aura peut-être un sur la prochaine génération. Je sais pas, peut-être que l'arrivée des nouvelles consoles, ça serait un moyen de justifier le retour
Mais t'as bien vu les jeux de tennis, hein. Il y en a qu'un seul, hein, sur cette gêne. Hein. Il y en a qu'un seul.
Et il est pas top en plus, non?
Qu'un seul vrai jeu de tennis, parce que sinon il y a l'autre. Voilà,
Mario.
Simu,
mais on sait tous que le meilleur jeu de boxe de tous les temps, c'est Wii Boxing.
Oui, c'est vrai.
Qui t'épuise littéralement, effectivement.
Ou Fitness Boxing.
Ah, Fitness Boxing, que je vous recommande.
Ah, ça, il y a des athlètes de Fitness Boxing ici. Ah, et le shadowboxing aussi, mais ça c'est une autre histoire. Bon bah voilà, après avoir parlé de ce jeu d'il y a 15 ans déjà, autour de Plume toujours, pour parler d'un hors-jeu.
Eh oui, c'est le hors-jeu de la semaine, un hors-jeu sur une série qui a commencé il y a quelques années déjà et qui est arrivée à sa saison 2 il y a plusieurs semaines maintenant, mais que j'ai l'occasion de regarder... évidemment sur Netflix, puisque je ne fais plus que ça maintenant.
Oh, tu fais la pub.
Quand je bosse pas, je...
C'est Herschel de
absolument,
Walking Dead.
Absolument, le regretté Herschel Green de Walking Dead.
Krzysztofski, ouais.
Spoiler.
De quoi? Bah non, ouais. Non, c'est un truc de la saison 1, ça, hein, ce que vous voyez, si vous êtes premium. C'est le trailer de la saison 1. Effectivement, alors ça... La saison 1, si vous l'avez pas regardé, je vous la résume rapidement. C'est une jeune femme qui va réapparaître dans sa famille 7 ans après avoir disparu. À l'époque, elle était une petite fille aveugle.
On appelait Kenya Chica.
Et quand elle est retrouvée par sa famille, de manière un peu étrange, parce que en fait, elle s'était jetée d'un pont juste avant. Quand elle est retrouvée par sa famille, elle n'est plus aveugle. Il s'est passé des choses dans son existence qui sont un petit peu louches, voire très 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 louches, et elle va réunir autour d'elle des personnes un peu parias pour essayer de créer une manœuvre qui pourrait l'aider à contacter des personnes qui ne sont pas sur ce plan. C'est un peu bizarre.
Sur ce plan ?
Oui, sur ce plan de l'existence.
Ah, exactement.
Donc c'est un peu bizarre, voire extrêmement bizarre. Et la saison 2 est tout aussi bizarre que la première, qui avait en plus comme particularité d'être un petit peu chelou pour une chorégraphie qui est à l'intérieur, qui rend le truc encore plus space,
encore plus barré.
Ouais, et la fin de la première saison donc laissait envisager des choses assez tragiques, et la deuxième saison s'ouvre sur ça va finalement, ça va, mais il y a eu des séparations, on va voir des nouveaux personnages qui vont entrer dans la danse pour de nouveaux enjeux, et c'est toujours aussi joli à regarder, vraiment. C'est très très bien filmé, que ce soit la photo, le cadre, c'est assez exceptionnel dans la façon dont on croit vraiment qu'on est dans un rêve. Il y a aussi une petite émission un petit peu de, du jeu vidéo dans cette saison, j'en dis pas plus. C'est bourré de mystère, c'est bourré de charme. Britt Marling, donc, qui joue la, le personnage principal, est absolument saisissante hein, dans, dans cette série. C'est la co-créatrice avec un autre, avec une personne qui réalise essentiellement, qui est Zal Batman-Glige. Alors j'aime bien son nom parce qu'il y a Batman dans son nom. Donc du coup, c'est rigolo.
Batman-Glige ?
Oui, Batman-Glige, absolument. C'est rigolo, je le disais.
Je trouve qu'il y a un des mecs du casting qui ressemble à Cadmerade.
Eh bien non, c'est pas lui.
Eh bien ce n'est pas Cadmerade, je te le dis tout de suite.
Mais il lui ressemble, il y a
aucune chance que tu le trouves lui. Bref, la deuxième saison donc est très spéciale. L'ambiance est toujours complètement barrée. Il y a beaucoup d'imagination hein, dans, ce, dans cette série. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, je pense, pour assimiler tout ce qui s'y passe et apprécier vraiment l'histoire qui se déroule devant nos yeux, ou plutôt les histoires hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages différents. Mais et justement... Romain qui rigole sur le Batman Glitch, oui, donc du coup
mais ça part dans tous les sens, ou c'est cohérent quand même, enfin cohérent dans l'incohérence.
Mais alors c'est,
on va
ça
dire.
Qui, c'est ça qui est fou, c'est que c'est que totalement cohérent. Tu te dis mais en fait c'est complètement con, c'est barré et tout, et en fait non, ça tient vraiment, vraiment la route. Il faut juste se faire à l'idée que c'est, comme je te dis, c'est un rêve en fait. T'as l'impression vraiment d'être dans un rêve, et ça marche très, très bien. Et je vous la conseille vraiment cette série, d'autant que la fin de saison augure d'une saison 3 bah, tout aussi folle et tout aussi barrée, et que bah, j'ai très, très hâte qu'elle arrive. Et je crois que je suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde.
T'as déjà vu toute la saison 2, tout ça ?
Oui.
De combien ? Il y a 8 épisodes ?
Il y a 8 épisodes absolument. Par contre, c'est du très très costaud.
Une heure
c'est
à chaque
une
fois.
Heure quasiment à chaque épisode. Wow. Il y en a un ou deux qui font 42 minutes. Ouais. Mais sinon, c'est.
Il y a l'humour, les...
de l'humour mmh. Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Ah non, c'est pas
un jeu où on a un film où on ne rigole pas.
C'est absolument pas comique. C'est vraiment. C'est plus thriller, science-fiction,
surnaturel,
et assez tragique, surtout très beau.
Moi, voilà. J'ai vu que le premier épisode de la saison 1 et je me suis arrêté là, je sais pas pourquoi. Mais ça m'a quand même.
C'était trop dur, il fallait
continuer.
Amortiser peut-être.
Hein ? Ouais. Non, mais je l'ai fait tout à l'heure, celle-là, c'est bon. C'est
ah, ok. Bah, je peux le faire plein de fois.
X de Netflix,
hein.
Moi, j'ai essayé de voir Cadmerade depuis tout à l'heure, mais ils l'ont pas remontré. Donc, j'ai pas vu de quel acteur je n'ai parlé.
Ouais, de qui tu parlais pour Cadmerade ?
Je sais pas de qui tu parlais.
Tu veux nous remettre là ?
Ah ouais, c'est vrai qu'il ressemble vachement. Ah ouais, Cadmerade !
Laisse.
En fait, c'est ça qui me donne envie de regarder la série, quoi. C'est.
Bon, il y a que ceux qui peuvent voir la vidéo qui
peuvent. Ah oui. Ouais, voilà, les premiums. Si vous êtes pas premium, vous saurez pas qu'il y a Cadmerade dedans.
Non, mais c'était avant, je crois.
C'est vrai ?
Ah, je sais plus.
Après, il y a des gens qui sont pas du tout physionomistes, hein, donc.
Oui, et Johnny en fait partie.
Johnny, ouais.
Johnny en fait partie, il faut le savoir.
Par contre, il a tout platiné, mais.
Donc voilà.
Il a perdu son acuité visuelle, donc.
On le revoit plus.
C'était mon petit conseil de la semaine. N'hésitez pas à regarder The OA, que ce soit les deux, la première saison évidemment, et la deuxième qui est tout aussi bien, voire même encore plus passionnante.
Loa, tu connais Loa ? Qu'est-ce que ça veut dire The OA ?
Ah bah vous le découvrirez à vous-même, parce que en fait je l'ai oublié. Voilà, je l'ai oublié.
Ah mais tu sais, c'est pas un secret.
Oui, tu l'apprends à l'intérieur évidemment.
D'accord, ok. Ouais, bah parfait, hein. Je crois qu'on a fait tout le tour. Je regarde mes fiches que j'ai écrites avec amour. Pour être sûr de n'avoir rien oublié, n'est-ce pas ? Et bien voilà, ainsi se termine, s'achève ce podcast numéro 494. Et puis voilà, avec tous mes acolytes, Johnny One, merci Romain, merci Plume.
Merci.
Vous êtes sûr de j'aime, vous êtes trompé merci sur Plume. Le numéro du podcast ?
Et moi, j'en ai fait que deux, donc.
En sauter un ou en oublier un.
Si, peut-être, c'est déjà arrivé, ça.
Donc en fait, nous sommes au 512e.
525e podcast de l'année.
Non, ça va arriver des
494. Voilà, ainsi s'achève ce podcast sur ces bonnes paroles de Johnny One. Qui nous fait flipper depuis 5 minutes là, mais en fait non, ça va aller. Et puis voilà, quelqu'un a quelque chose à dire pour finir, non ?
Ouais,
Modizy,
bah,
tout ça machin.
Ouais,
non, Modizy,
y a pas de
comme
ça. Exactement. Sachez
59%.
Sachez que les phrases de Traz sont cultes. Voilà, ouais, sachez-le.
Exactement.
C'est tout.
Et copyrighté.
Et copyrighté.
Attention, il faut payer des royalties.
Les royalties, si vous les utilisez comme plume, ce voleur.
Ouais. Quand t'avais Gif, il s'aimait.
Non, voilà. Gif, il s'aimait, ça vient de moi. Et lui, il m'a piqué, cet enfoiré. C'est un enfoiré de sa race. Vous pouvez lui dire sur Twitter, l'insulter.
Ah bah oui, vous pouvez répondre au tweet même où j'ai écrit quand t'avais Gif, il s'aimait. Je l'ai totalement volé à Traz.
Voilà.
Parce que ça me faisait rire.
Vous pouvez le traiter de nazi, de voleur, tout ce que vous voulez, on s'en fout. C'est pas grave.
Faites-vous plaisir.
Et bien sûr, c'est bonnes paroles, ma foi. Bonnes paroles de voleur. On vous dit à la semaine prochaine et surtout, eh bien. faire continuer à jouer à Sekiro en mode facile, difficile, peu importe.
Il y a un mode.
Ah, c'est pas fini apparemment.
J'ai dit que Sekiro, c'est un cousin de, des pommes, des
alors, de la sang.
Pour
du
ceux qui veulent, il y a moyen de rendre Sekiro encore plus difficile.
Ah, cool.
Ouais, il y a un item à un moment, si tu le récupères, ça rend le jeu plus dur. Voilà.
Ah ouais?
Pour ceux qui veulent, ouais.
Tu plaisantes ou
non? Je plaisante pas, c'est vrai.
La manette te file des coups de jus quand tu joues.
C'est ça.
Non, mais t'as
tu joues avec la tête.
Tu gagnes des meilleurs objets par contre si tu le fais.
D'accord. Voilà. Eh ben, dis donc, il s'arrête.
Eh ben, dis donc, ça va être le moment de raccrocher les wagons, peut-être.
Ouais, ouais, ça arrive tranquille, on ne sait pas.
Salut, Julo.
Eh bien, chers amis, merci à Genuine, une fois de plus. Et puis, voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, le 495, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ici là, eh bien, jouez bien à Sekiro ou autre chose. Et puis, continuez à commenter en dessous, là, pour nous insulter, surtout Plume, ce voleur. Et voilà. À très bientôt.
Ciao,
ciao à tous.
Ciao.